Les persécutions des premiers Quakers en Amérique, suite en effet, tous ceux qui sont résolus à vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. 2 Tim 3, 12 Le lendemain de l'exécution de ses deux amis, Méridier s'adressa à leur juge persécuteur dans un style sublime, faisant preuve d'audace et de force d'âme, avec un sens si profond de leur procédure inique que cela devait fortement les impressionner. Elle écrivit le lendemain, le 28 octobre, la lettre suivante à la cour, d'après l'histoire de Soul le 38e jour du 8e mois, 1659 de nouveau, à la cour générale assemblée à Boston, par le Méridier comme auparavant. Ma vie n'est pas acceptée et ne m'est d'aucun secours en comparaison de la vie et de la liberté de la vérité et des serviteurs du Dieu vivant pour lesquels, dans les entrailles de l'amour et de la douceur, je vous ai cherché, et pourtant, avec des mains méchantes, vous en avez mis deux à mort, ce qui me fait sentir que les compassions des méchants sont cruautés. Je préfère mourir que vivre, venant de vous, comme coupable de leur sang innocent. Ainsi, puisque ma requête est empêchée, je vous laisse au juge juste et scrutateur de tous les cœurs, qui, avec la pure mesure de lumière qu'il a donnée à chaque homme pour le bien de tous, vous fera, en son temps, voir de quel serviteur vous êtes, et de qui vous avez pris conseil, ce que je désire que vous examiniez, mais tout son conseil a été méprisé, et vous n'avez voulu d'aucune de ses réprimandes. Lisez votre part, Proverbes 1, 24-32, car en vérité, la nuit vient sur vous rapidement, où nul homme ne peut travailler, et dans laquelle vous tomberez assurément sous votre propre maître. Dans l'obéissance au Seigneur, que je sers en esprit, et par pitié pour votre âme que vous ne connaissez ni ne plaignez, je ne puis faire moins que de vous avertir encore une fois, rejetez le mal de vos actions, et baisez le Fils, la lumière en vous, avant que sa colère ne s'enflamme en vous, car là où elle est rien au dehors de vous ne peut vous aider ni vous délivrer de sa main. Et si ces choses ne sont pas ainsi, alors dites qu'aucun prophète du Seigneur n'a été envoyé parmi vous, quoique nous ne soyons rien, il lui plaît pourtant. J'entendis la lecture de votre dernier ordre, ce fut pour moi un trouble, moi qui offrais si librement ma vie à celui qui me l'a donnée et m'a envoyé ici pour ce faire, cette obéissance étant son propre ouvrage, il l'accompagna glorieusement de sa présence et de la paix et de l'amour en moi, dans lesquels je me reposais de mon labeur, jusqu'à ce que, par votre ordre et par le peuple, je fusse tellement troublé que je ne pus retenir davantage de ses paroles que ceci, que je devais retourner en prison et y demeurer 40. Méridier, le sursis accordé à Méridier ordonnait qu'elle demeura prisonnière pendant 48 heures, après quoi la magistrature jugea plus prudent de commuer sa peine en bannissement, sous peine de mort si elle revenait. Conformément à cette décision, elle fut envoyée, escortée de 4 hommes, à 15 milles en direction de Rhode Island, où on la laissa avec un homme et un cheval pour la conduire plus avant, mais, déclinant les services de son escorte, elle se rendit chez elle sans son aide. Le dégoût avec lequel le peuple avait vu les exécutions, et son mécontentement croissant face à des procédures aussi cruelles et contraires à la Constitution, poussèrent les dirigeants à adopter le plan de renvoyer Méridier chez elle, afin d'apaiser l'agitation qui régnait. Un sentiment d'indignation ne fut pas le seul effet produit, cette fois, dans l'esprit des colons. La constance chrétienne et la sainte résignation des victimes éveillèrent chez certaines personnes sérieuses le désir de connaître plus intimement les principes de ceux qui étaient fortifiés et soutenus avec joie jusqu'à souffrir même la perte de leur vie pour la cause de la religion. La conséquence de cette enquête fut une augmentation supplémentaire du nombre de la petite troupe persécutée. John Chamberlain fut l'un d'eux. En assistant à l'exécution, il fut si profondément touché qu'il fut convaincu de la vérité des principes pour lesquels les suppliciés mouraient. Ses sympathies s'étant éveillées, il fut conduit à visiter les prisons de Boston pour consoler et encourager ceux qu'il revendiquait désormais comme frères de la même foi religieuse. Cela n'échappa pas à l'attention de la magistrature, et en peu de temps, il ne fut pas seulement détenu dans la geôle, mais eut plus d'une fois à sentir durement les effets du fanatisme religieux par l'usage du fouet noué. Edward Wotton de Salem fut aussi profondément affecté par les exécutions et parla hardiment parmi ses concitoyens de la méchanceté de l'acte. Mais son témoignage contre ces procédures iniques attira la colère des dirigeants, et Edward, comme un compagnon péremptoire, fut puni non seulement de 20 coups de fouet, mais aussi d'une amende de 20 livres. Revenant aux autres amis emprisonnés à Boston, nous constatons qu'après environ 2 mois de détention, ils furent conduits devant la cour générale pour y être examinés. Devant ce tribunal, Daniel Good fut condamné à recevoir 30 coups, Robert Harpé et William King, 15 chacun, et Margaret Smith, Mary Trask et Provided Southwick, 10 coups chacune, tandis qu'Alice Cowlan, Anna Phelps, Mary Scott et Hope Clifton furent remises au gouverneur pour être admonestées. À Christopher Rold, le seul ami anglais du groupe, fut réservée la sentence de bannissement sous peine de mort. Le fouet châtiment au mieux barbare et dégradant, fut rendu en l'espèce encore plus répugnant par son application dans les rues ouvertes de la ville, et les prisonnières autant que les prisonniers étant dévêtus à cette fin, devant la foule qui regardait. Ces cruautés causèrent une grande agitation et un grand tumulte dans la ville, et la prison finit par être si encombrée de citoyens compatissants qu'on envoya une garde pour empêcher leur approche. La compassion du peuple, observe un écrivain ancien, fut émue. Beaucoup se rendaient à la prison de jour comme de nuit, et sur la représentation du geôlier, une surveillance constante fut maintenue autour de la prison pour tenir le peuple à distance. Le châtiment infligé, ils différèrent la libération des prisonniers jusqu'au paiement des frais du geôlier. Mais les victimes, refusant de reconnaître de quelque manière que ce soit leur emprisonnement injuste, refusèrent de s'acquitter de cette demande. Les habitants, toutefois, attristés par ces scènes de persécution qui avaient déshonoré leur pays, entreprirent d'en payer le montant et obtinrent leur élargissement. Les magistrats de Boston, constatant que les sympathies des colons étaient désormais fortement éveillées en faveur des victimes de leur intolérance et que les murmures de mécontentement contre leur conduite illégale augmentaient, s'efforcèrent de dissiper ce sentiment en publiant une justification de leurs actes. Partout, la défense n'est qu'une défense boiteuse, et la misérable apologie, comme on l'a justement appelée, se conclut de façon incohérente, digne d'hommes capables de commettre de tels forfaits de ténèbres. Considération de notre marche graduelle, disent-ils, nous justifiera des accusations bruyantes de sévérité, notre propre défense juste et nécessaire nous appelant, les autres moyens ayant failli, à opposer le point sur lequel ces personnes se sont jetées violemment et volontairement, et sont ainsi devenues criminelles, ce qui, si cela avait pu être empêché, et si la loi souveraine Salut Populi avait été préservée, nos procédures antérieures, ainsi que l'épargne de Méridier sur une intercession de peu d'importance montrent. On dit, remarque Bancroft, à propos de ce manifeste que les Quakers eux-mêmes se sont précipités sur l'épée, et qu'ils furent donc des suicidés. Si c'était le cas, poursuit-il, les hommes qui tenaient l'épée étaient complices du crime. La même excuse fallacieuse pourrait être avancée par les persécuteurs de la religion les plus implacables. Les dirigeants de la colonie de Plymouth, quoique moins sévères, dans leur mesure d'oppression des amis, que leurs voisins de Boston, continuèrent néanmoins à les harceler par de lourdes amendes pour non-assistance aux réunions. Thomas Hugh de Sandwich, en plus de saisies rigoureuses, fut ligoté, les pieds et le cou serrés ensemble, pour avoir repris ses persécuteurs à cause de ses procédures injustes. Peter Pearson et William Ledra, incarcérés à la prison de Plymouth au 4e mois 1659, n'obtinrent leur liberté qu'au début de l'année suivante, la durée de leur emprisonnement ayant été plus longue que celle de tout ami qui souffrit en Nouvelle-Angleterre. Au cours de l'année 1659, trois amis seulement semblent être arrivés de Grande-Bretagne pour un service religieux en Nouvelle-Angleterre. C'étaient Marmaduke Stevenson et Peter Pearson, déjà mentionnés, et John Taylor de York. Quant aux travaux religieux du dernier, on n'en a trouvé qu'un très bref récit. Il semble que l'année précédente, il ait senti un appel à se rendre en Amérique, mais, étant jeune homme et d'un tempérament réservé, il hésitait à s'engager dans une entreprise si importante sans consulter d'abord quelques-uns de ses amis. Agissant selon cette décision, il soumit la question à George Fox, Francis Haugill et Edward Burroughs, qui l'encouragèrent tous à partir, persuadés qu'il était appelé à cette œuvre. Il s'embarqua donc pour le nouveau pays depuis Londres, n'ayant alors que 22 ans, et après un voyage de 10 semaines, il débarqua au Havre-Désiré en Nouvelle-Angleterre. Combien de temps il œuvra dans les limites de cette province n'est pas indiqué, mais ses services religieux ne se bornèrent pas aux colons anglais. S'en remettant aux bras infaillibles de la direction et de la protection divine, il voyagea seul parmi les tribus indiennes et tint des réunions dans les bois et la solitude pour leur déclarer la vérité, comme il le rapporte, et les tourner des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ dans leur propre cœur. Par ces fils de la forêt sans instruction, le jeune prédicateur fut accueilli avec bonté, et dans leurs wigwams, il devint un hôte bienvenu. Ils m'écoutèrent avec sérieux, dit-il, et reconnurent la vérité que je leur disais par un interprète, et ensuite ils furent aimants et bienveillants envers les amis. Au cours de cette histoire, nous aurons de nouveau à nous référer à John Taylor, mais on peut observer ici qu'un contemporain le décrit, comme un ministre capable du Nouveau Testament, dans la publication duquel l'Esprit de Dieu et de gloire reposait sur lui, pour la consolation et le vrai rafraîchissement des églises, là où le Seigneur l'ordonnait, ou là où le sort l'avait placé. Chapitre Ximéridi retourne encore à Boston, est arrêté et condamné à mort, lettre de son mari à Endicott, la procession vers le lieu d'exécution, la constance chrétienne de Méridier, l'exécution, quelques indications sur sa vie et son caractère, Joseph et Jeanne Nicholson de Cumberland, visite la Nouvelle-Angleterre, ils sont emprisonnés à Boston, lettre de Joseph Nicholson à Margaret Fell depuis la prison de Boston, ils sont libérés et voyagent vers Plymouth, sont bannis de cette colonie, et se rendent à Rhode Island. Nicholson écrit à Margaret Fell, leur retour en Angleterre, plusieurs amis de Salem sont emprisonnés à Boston, bannissement et souffrance de Wenlock Christison, et d'autres une réunion mensuelle est établie à Sandwich et Situate. Extrait des archives coloniales concernant ces réunions. Observation sur l'établissement de réunions de discipline parmi les premiers Quakers anciens documents s'y rapportant. Le dernier avis concernant Mary Dye mentionnait son expulsion du Massachusetts lors du sursis qui lui sauva la vie et son retour ultérieur à Rhode Island. Peu après, elle se crut appelée de nouveau à quitter les commodités et le bonheur du foyer pour voyager au service de son maître divin. Sa route, cette fois, fut dirigée vers Long Island, où elle passa la plus grande partie de l'hiver, puis elle se rendit à Shelté Island, sur le continent près de Narragansett et jusqu'à Providence. Là, elle entra dans un profond exercice religieux de l'âme, persuadée qu'il lui était demandé de visiter encore une fois le Massachusetts pour achever, comme elle l'exprime, sa triste et lourde expérience dans la ville sanglante de Boston. Quittant donc le paisible refuge de Providence, elle se mit en route vers la ville persécutrice et y arriva le 21 du troisième mois, 1660. Ayant déjà failli être victime de la potence pour s'être aventurée auparavant dans ses limites, sa présence surprit maintenant les dirigeants. Ils avaient nourri l'espoir que l'exemple effrayant de leur cruauté dans l'exécution de ses récents compagnons suffirait à la dissuader de revenir parmi eux. Mais ils étaient aveugles au caractère et aux motifs de Mary Dye, et ignorants de l'efficacité de cette puissance divine par laquelle elle était conduite et soutenue. La magistrature avait été si vigilante pour empêcher la propagation des vues des amis dans la province que, dans tous les cas précédents, on n'avait pas perdu de temps à arrêter immédiatement ceux qui venaient à Boston à cette fin, mais, soit à cause de la perplexité où les dirigeants furent plongés par le retour de Mary Dye, démontrant la vanité de leur en acte barbare visant à exclure les amis, soit par crainte d'accroître l'excitation de l'opinion publique, ou pour toute autre raison, pendant 10 jours après l'arrivée de cet ami. En cette occasion, la cour générale siégeait. Il y avait alors plusieurs amis dans les prisons de la ville, dont certains étaient venus séjourner dans la province et, comme Mary Dye, au grand embarras d'Endicott et de ses collègues magistrats, étaient revenus après avoir été bannis sous peine de mort. Depuis son sursis, plusieurs colons aussi avaient, selon la loi contre les Quakers, encouru la peine de mort. Pourtant les dirigeants hésitaient à appliquer cette peine extrême. Mais Mary Dye était une étrangère, et l'un de ses objectifs avoués en venant était de prêcher ses doctrines contre lesquelles tout le poids de l'autorité était ardemment dirigé. L'exemptée, après qu'elle avait déjà bénéficié d'un sursis, aurait donc constitué un abandon virtuel de l'enactme, une voie à laquelle il n'était pas encore prêt. Le 31 du troisième mois, elle fut de nouveau traduite devant la cour générale. Endicott, qui mena l'examen, lui demanda si elle était la même Mary Dye qui avait déjà comparu là auparavant. Elle répondit sans hésiter, « Je suis la même Mary Dye qui était ici à la dernière cour générale. » Endicott dit, « Alors vous vous reconnaissez Quake, n'est-ce pas, moi-même, pour être appelée ainsi d'une manière injurieuse ?» répondit Mary Dye. Endicott, après avoir dit, « Je dois donc répéter la sentence prononcée auparavant contre vous, poursuivit ainsi, vous devez retourner en prison et y demeurer jusqu'à demain à 9h, puis de là vous devrez aller à la potence et y être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce n'est, dit calmement Mary Dye, rien de plus que ce que vous avez dit auparavant. » Et à cette remarque, Endicott répondit, « Mais maintenant, cela doit être exécuté, préparez-vous donc pour demain à 9h. » Cette femme dit, sans être émue par la terrible sentence, et inébranlable en sa conviction que l'appel à venir parmi venait d'en haut, s'adressa ainsi à la cour, « Je suis venue en obéissance à la volonté de Dieu, à la dernière cour générale, vous priant d'abroger votre sentence injuste de bannissement sous peine de mort, et c'est là mon même travail maintenant. » Et ma demande pressante, bien que je vous ai dit que si vous refusiez de les abroger, le Seigneur enverrait d'autres de ses serviteurs pour témoigner contre eux. Endicott, troublé par son adresse, lui dit d'un ton moqueur, « Êtes-vous une prophétesse ?» Astérisque, j'ai prononcé les paroles, répondit-elle, que le Seigneur m'a dites, et maintenant la chose est arrivée. Elle commença ensuite à parler davantage de son appel religieux, mais le gouverneur impatient s'écria « Emmenez-la », et elle fut promptement conduite en prison. Astérisque remarqué, l'humilité de sa réponse. Elle ne se vanta pas d'être une prophétesse, elle relata plutôt le fait que ses paroles venaient du Seigneur et qu'elles s'étaient accomplies. L'amour ne se vante pas. Endicott semble penser que les prophètes ne font que prédire l'avenir, mais 1 Cor 14:3 dit « Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Quiconque prononce des paroles fournies par l'Esprit de Dieu prophétise, et presque tous les chrétiens mûrs des premiers temps et les premiers Quakers prophétisaient, quoi donc frère ?» Quand vous vous assemblez, que chacun de vous ait un psaume, une doctrine, une langue, une révélation ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 1 Cor 14:26. Que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse, instruisant et s'avertissant les uns les autres. Col 3:16. Nous parlons aussi de ces choses, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, combinant les choses spirituelles avec des vérités spirituelles. 1 Cor 2:13. L'Apocalypse nous parle de ceux qui prophétisent, disant ce que l'Esprit leur dit de dire. Par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12:11. Le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12:17. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19:10. Le départ de Mary Dier pour Boston, en cette occasion, plongea sa famille dans la plus grande détresse, car elle était bien assurée que la conséquence en serait le sacrifice de sa vie. Son mari, dont les vues religieuses n'étaient pas en accord avec celles des amis, l'aimait néanmoins tendrement et, soucieux de la préserver, adressa l'appel touchant suivant au gouverneur Endicott, d'après The Friend, un journal de Philadelphie, vol. Yves P. 165, 3e mois, 5 jours, 1831. Monsieur Honoré, c'est avec une grande affliction d'esprit et une tristesse de cœur que je suis contraint d'oser vous supplier, vous-même, honorable, avec l'honorable assemblée de votre cour générale, d'étendre encore une fois votre miséricorde et votre faveur à moi et à mes enfants. Je n'aurais guère imaginé avoir occasion de présenter une requête de cette nature, mais il se trouve que, par la providence divine et votre bienveillance, mon fils a obtenu de vos mains assez de pitié et de miséricorde pour jouir de la vie de sa mère. Maintenant, ma supplication à vos honneurs est de solliciter avec affection la vie de ma chère épouse. Il est vrai que je ne l'ai pas vue depuis plus de 6 mois, et je ne puis dire comment, dans l'état de son esprit, elle a été ainsi poussée de nouveau à courir un si grand péril pour elle-même, et une si grande perplexité pour moi et les miens, et pour tous ses amis et bienveillants. Ainsi, depuis Shelter Island, passant par Pennod, Narragansett, jusqu'à la ville de Providence, elle a voyagé secrètement et rapidement, et tout aussi secrètement elle est venue de là dans votre juridiction. Malheureux voyage, puis-je dire, et malheur à cette génération, dis-je, qui donne ainsi occasion de tristesse à ceux qui désirent être tranquilles, en cédant les uns les autres à risquer leur vie, je ne sais à quelle fin ni dans quel but. Si son zèle est si grand qu'elle s'aventure ainsi, oh, que votre pitié et votre faveur le surmontent et sauvez-lui la vie. Ne laissez pas votre amour et votre compassion habituelle être vaincus par sa folie inconsidérée. Et combien votre renom se répandra, si par une telle victoire, vous devenez victorieux, que dirai-je de plus? Je sais que vous êtes tous sensibles à ma condition, vous voyez ce qu'est ma requête, et ce qui donnera à moi et aux miens la paix. Que les ailes de la miséricorde s'élèvent au-dessus de la balance de la justice, et alors, tant que je vivrai, j'exalterai votre bonté, mais autrement, ce sera une douleur languissante, oui, si grande, que je préférerais volontiers recevoir le coup d'un seul trait plus tôt. Je m'abstiendrai de vous importuner de paroles, je ne suis d'ailleurs pas en état de m'étendre à présent. Je dis seulement ceci, vous avez été, et vous êtes, ou vous pouvez être, des maris pour des épouses, moi aussi, oui, pour une épouse très tendrement aimée. Oh, ne me privez pas d'elle, mais je vous prie, rendez-la moi encore une fois. Je vous en serai si obligé pour toujours que je m'efforcerai continuellement d'exprimer ma reconnaissance et de vous rendre amour et honneur très renommé. Ayez pitié de moi, je vous en supplie avec des larmes, et je demeure votre humble suppliant, W. Dierrapel. Son mari n'avait pas été convaincu de la vérité, il ne pouvait donc pas comprendre l'obéissance au commandement du Seigneur, ni concevoir comment le Seigneur consolerait son épouse dans sa souffrance et son exécution. Même le Seigneur fut jugé par ses propres proches comme étant hors de sens, hors de lui, dérangé, Marc 3, 20-21. Quelle réponse fut faite à cet appel, on ne le sait pas, si tant est qu'Endicott daigna y répondre. Il fut toutefois sans effet. Le matin suivant sa condamnation, le 1er du 4e mois, Mary Dier fut conduite à l'exécution. Mary Dier en route vers la potence, peinture de Howard Peel, les démonstrations de sympathie des habitants, envers les victimes de ces procédures, iniques causèrent à Endicott une grande inquiétude, et craignant que le peuple ne la manifestât d'une manière très incommode, il jugea prudent qu'une forte garde de soldats fût présente. À l'heure fixée, le prévôt Michelson vint et l'appela pour qu'elle se hâtât, et, entrant dans la chambre où elle se trouvait, elle lui demanda de rester un peu, et parlant avec douceur, dit qu'elle serait prête dans un moment. Mais lui, d'un tempérament rude, dit qu'il ne pouvait l'attendre, mais qu'elle devait maintenant l'attendre lui. Une certaine Margaret Smith, sa compagne, affligée de voir tant de dureté de cœur, dit quelque chose contre leurs lois et procédures injustes, à quoi il répondit « Tu auras ta part de la même chose ». Alors Mary Dier fut amenée dehors, et avec une troupe de soldats, conduite à travers la ville, les tambours battant devant et derrière elle, et cela continua afin que nul ne pût l'entendre parler tout le long du chemin jusqu'à la potence, qui était à environ 1 mile. Avec cette garde, elle arriva à la potence et étant montée à l'échelle, certains lui dirent que, si elle voulait retourner, elle pourrait redescendre et sauver sa vie. À quoi elle répondit « Non, je ne puis, car je suis venue en obéissance à la volonté du Seigneur, et dans sa volonté je demeure fidèle jusqu'à la mort. » Alors le capitaine John Webb dit qu'elle était déjà venue auparavant et avait reçu la sentence de bannissement sous peine de mort, et qu'en revenant maintenant elle avait enfreint la loi, et qu'elle était donc coupable de son propre sang. À quoi elle répliqua « Non, je suis venue pour vous préserver de la culpabilité du sang, désirant que vous abrogiez la loi injuste et inique de bannissement sous peine de mort, faite contre les innocents serviteurs du Seigneur. C'est pourquoi mon sang sera réclamé de vos mains, à vous qui le faites volontairement, mais pour ceux qui le font dans la simplicité de leur cœur, je désire que le Seigneur leur pardonne. Je suis venue pour faire la volonté de mon Père, et dans l'obéissance à sa volonté, je tiens bon jusqu'à la mort. » Alors le prêtre Wilson dit, « Mary Dear, oh repentez-vous, et ne soyez pas ainsi abusée et emportée par la tromperie du diable. » À cela Mary Dear répondit, « Non, mon homme, ce n'est pas maintenant que je dois me repentir. » Et interrogée par certains pour savoir si elle voulait que les anciens prient pour elle, elle dit, « Je ne connais pas ici un seul ancien. » On lui demanda ensuite si elle voulait que quelqu'un du peuple prie pour elle. Elle répondit qu'elle désirait les prières de tout le peuple de Dieu. Là-dessus, certains dirent en se moquant, « Peut-être pense-t-elle qu'il n'y en a aucun ici. » Elle regarda autour d'elle et dit, « Je sais qu'il n'y en a que quelques-uns ici. » Alors ils lui dirent encore qu'un des anciens pouvait prier pour elle. À quoi elle répondit, « Non, d'abord un enfant, puis un jeune homme, puis un homme fort avant un ancien en Jésus-Christ. » Après cela, on l'accusa de quelque chose qu'on ne comprit pas ce que c'était, mais elle sembla l'entendre, car elle dit, « c'est faux, je n'ai jamais prononcé ces paroles. » Alors quelqu'un mentionna qu'elle aurait dit qu'elle avait été au paradis. À quoi elle répondit, « Oui, j'ai été au paradis plusieurs jours. » Elle parla encore du bonheur éternel dans lequel elle allait maintenant entrer. Dans cette disposition bien ordonnée, elle fut précipitée de l'estrade, tombant à sa mort, martyr du Christ, ayant été deux fois conduite à la mort. La première fois elle l'attendit avec un courage intrépide, et maintenant elle la subit avec une fermeté chrétienne. Ainsi cette femme, honnête et vaillante, acheva ses jours, mais ses persécuteurs étaient si endurcis que l'un des membres de la cour dit en se moquant, « Elle pendit comme un drapeau pour que d'autres en prennent exemple. » Statue de Mary, Dier devant le Massachusetts, Sylvia Shaw Judson sculptrise le récit des persécutions témoigne du faux salut des persécuteurs, de telles persécutions ayant été prédites dans l'Apocalypse par la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints, qui chevauchait la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau, portant de nombreux noms protestants et catholiques, imitant l'Église du Christ. Voir Babylone et l'apostasie pour plus. Seuls quelques détails de son histoire antérieure sont consignés dans les écrits des amis. Il apparaît toutefois que, bien avant d'adopter nos principes, elle était un personnage éminent en Nouvelle-Angleterre. Dès 1637, soit environ 20 ans avant de se déclarer des amis, elle fut une dirigeante distinguée de la scission antinomienne dans ce pays. Old Mixon, dans son Histoire des colonies anglaises en Amérique, parle d'elle comme de la compagne d'Anne Hutchinson dans cette controverse, et dans un ouvrage plus récent, elle est mentionnée comme sa fidèle disciple. Comme d'autres disciples de l'église puritaine du Massachusetts, Mary Dear et son mari furent bannis de Boston et, avec la plupart des antinomiens, s'installèrent à Rhode Island. Son mari était l'un des 18 qui formèrent le « corps politique » lors de l'établissement de Rhode Island et occupa ensuite la charge de secrétaire de la colonie. Accompagnant le gouverneur de Rhode Island, Roger Williams, et John Clark dans une mission politique en Angleterre, elle rencontra George Fox, où elle fut convaincue de la vérité, demeurant en Angleterre pendant 5 ans. Il est clair que Mary Dear était dotée de qualités intellectuelles peu communes. Ses adresses à la cour et sa conduite lorsqu'on la mena à l'exécution montrent qu'elle possédait une capacité considérable et une grande force d'âme, ou plutôt la puissance du Saint-Esprit. John Taylor, qui fut uni à elle dans certains travaux évangéliques à Shelter Island peu avant son exécution, dit « C'était une femme très agréable et une matrone grave, et elle brillait même de l'image de Dieu. » Saul, qui rend un témoignage semblable, dit qu'elle avait des qualités extraordinaires et qu'elle était de bonne famille et de fortune, et mère de plusieurs enfants. Crowe, écrivain hollandais, déclare qu'elle passait pour une personne d'extraction et de parentage non médiocre, d'une fortune assez abondante, d'une taille et d'un visage agréable, d'une connaissance pénétrante en beaucoup de choses, d'un discours merveilleusement doux et agréable, si propre aux grandes affaires qu'il ne lui manquait rien de ce qu'on attribuait généralement aux seuls hommes, sinon le nom et le sexe. Au moment de l'exécution de Mary Dear, plusieurs amis se trouvaient dans les prisons de Boston, parmi lesquels Joseph et Jeanne Nicholson de Cumberland. Par une lettre adressée au deuxième mois 1660 à Margaret Fell, Il apparaît qu'ils avaient l'intention de faire de Boston leur domicile, du moins pour un temps. Cette lettre relate plusieurs incidents intéressants, comme suit, de Joseph Nicholson à Margaret Fell depuis la prison de Boston, le troisième jour du deuxième mois, 1660, M.F. Le 7 du premier mois, j'ai été appelé à comparaître devant la cour à Boston, et lorsque je suis arrivé, John Endicott m'a dit d'ôter mon chapeau, et après quelques mots à ce sujet, il m'a demandé pourquoi j'étais venu dans le pays. Je lui ai dit qu'il avait déjà ma réponse, puis il m'a demandé qui m'avait envoyé. Je lui ai dit que j'avais été poussé par le Seigneur à venir ici avec mon épouse pour séjourner dans cette terre. Il m'a alors demandé d'où je venais. Je lui ai dit de Cumberland, où je vivais autrefois. Puis il m'a demandé ce que je ferais lorsque j'aurais ma liberté. Je lui ai dit que je travaillerais de mes mains à ce qui est honnête, comme je l'avais fait auparavant si le Seigneur m'y appelait. Il a dit, n'irais-je pas prêcher ? Je lui ai dit que si j'avais une parole du Seigneur à dire, où que j'aille, je pourrais la dire. Il a demandé si mon épouse était en état de venir à la cour. Je lui ai dit qu'elle l'était, alors il a dit au geôlier d'aller la chercher, elle et les deux autres Quakers de la vieille Angleterre. Quand ils sont venus, après quelques questions tentatrices, nous avons été renvoyés en prison. Le lendemain, nous avons été appelés de nouveau, et la cour nous a condamnés à quitter leur juridiction avant le 16e jour du mois, sans y revenir sous peine de mort. Nous n'avons pas eu la liberté de parler pour notre défense, mais à plusieurs reprises, ils m'ont fermé la bouche et menacé de me bâillonner et de me fouetter quand je ne pouvais m'empêcher de parler. Bellingham s'est vanté en pleine cour et a dit que leur loi était trop forte pour nous. Ils menacent fréquemment de leur potence. Mon épouse n'a pas pu quitter la prison avant le dernier jour du délai qui nous était accordé. Et alors nous sommes passés à Salem, un lieu où se trouvent quelques amis, et y sommes restés jusqu'au 20, puis deux constables sont venus, nous ont pris tous deux et nous ont conduits en prison. En passant dans la rue, nous avons rencontré le geôlier, qui a dit que j'étais revenu pour voir si la potence me tiendrait. Les deux autres amis bannis avec nous étaient l'un qui appartenait au navire et une servante qui était venue avec nous dans le navire et qui était en prison depuis environ une semaine avant l'ouverture de la cour. Ils sont à présent sortis de la juridiction, mais auront peine à en être quittes à moins qu'ils ne reviennent. J'ai eu plus de paix que jamais depuis que cette chose m'a été révélée, avant que je vous en parle, ainsi que la volonté du Seigneur s'accomplisse en cela, quoi que ce soit. Joseph Nicholson. Selon la loi de Boston, Joseph Nicholson et son épouse, en demeurant au Massachusetts, avaient encouru la peine de mort, et le geôlier, présumant qu'il tenait une nouvelle victime pour la potence, mit Joseph au fer. Le jour de l'exécution de Méridier, ils furent conduits devant la cour générale pour voir, observe Bishop, si la terreur de cela pouvait les effrayer. Mais, poursuit-il, la puissance du Seigneur en eux était au-dessus de tout, et ils ne les craignirent pas, ni leur menace de les mettre à mort. C'est alors qu'il était détenu dans la prison de Boston que Joseph Nicholson écrivit une remontrance aux dirigeants de la province, qu'il intitula « La bannière du Seigneur levée en Nouvelle-Angleterre ». La manière hardie et inébranlable dont les amis furent fortifiés à résister à l'enactme de bannissement impressionna les dirigeants de Boston de crainte, et, hésitant à poursuivre leur course sanglante, ils libérèrent de nouveau Joseph et Jeanne Nicholson de prison. Ayant recouvré leur liberté, ses amis se rendirent dans la colonie voisine de Plymouth. Les dirigeants, toutefois, de ce district s'impatientèrent avec ceux de Boston, et les deux amis ne furent pas autorisés à y trouver un lieu de repos. « S'ils les ont chassés de Boston, dirent les magistrats de Plymouth, nous n'avons rien à faire avec eux. » De Plymouth, le couple exilé se rendit à Rhode Island, d'où Joseph Nicholson adressa une lettre à son amie Margaret Fell, dont voici un extrait. De Joseph Nicholson à Margaret Fell depuis Rhode Island, le 10e du 5e mois, 1660, M.F. Nous avons trouvé le Seigneur, un Dieu proche, et bien que nos vies ne nous fussent pas chères, pourtant il nous a délivrés des mains d'hommes assoiffés de sang. Nous avons mis nos vies entre nos mains pour l'honneur de la vérité, et par la puissance de Dieu, nous les avons encore. Bien que nous ayons beaucoup insisté pour avoir la liberté de partir comme nous étions venus, nous ne l'avons pas pu, mais nous sommes de nouveau bannis. Comment cela sera ordonné ensuite, si leur loi ne tombe pas, puisqu'elle est enfreinte, nous ne le savons pas, car si le Seigneur nous appelle encore à y aller, il faudra y aller, et que nous mourions ou que nous vivions, ce sera bien. Sa présence puissante fut beaucoup avec nous à Boston. Nous avons trouvé beaucoup de faveur aux yeux de la plupart des gens de cette ville. La puissance de Dieu a retenti à haute voix bien des fois dans leurs rues, ce qui a fait que certains ont quitté leur réunion et sont venus autour de la prison, ce qui fut un cruel tourment pour quelques-uns d'entre eux. Je pense que je passerai vers Shelter Island avant longtemps, et vers quelques lieux de ce côté où je ne suis pas encore allé. Et pour tout ce que nous savons à présent, Jeanne pourrait rester ici quelque temps. Les gens de Boston étaient contents de notre départ, car il n'y en avait pas beaucoup, je crois, qui auraient voulu que nous fussions mis à mort. Nous allons bien dans le Seigneur. Votre ami dans la vérité, Joseph Nicholson, j'ai été prisonnier à Boston environ 6 mois, et mon épouse prisonnière 18 semaines. Joseph et Jeanne Nicholson retournèrent bientôt en Angleterre, mais à peine avaient-ils regagné les rivages de leur terre natale qu'ils furent enfermés dans les murs du château de Douvres. Écrivant de là au deuxième mois 1661, Joseph Nicholson dit « Si le Seigneur ouvre bientôt la voie à ma liberté hors de ses liens, je passerai en Virginie dans le navire des amis, et ainsi de nouveau en Nouvelle-Angleterre, mais par quel chemin Jeanne ira, ou comment elle se porte, je ne puis le dire. Nous aurons à reparler de ses amis plus tard. » Lorsque Joseph Nicholson écrivait de Boston, il parlait de plusieurs amis qui étaient ses compagnons de captivité. C'était Mary Trask, John Smith, Margaret Smith, Edward Wharton et quelques autres de Salem. À peu près au même moment, Robert Harpé et son épouse furent également incarcérés dans ce misérable lieu, et après eux William Ledra, qui, semble-t-il, était revenu à Boston après avoir été banni sous peine de mort. Ceci, observe Bishop, était dans la prison de Boston au dixième mois 1660, où, ajoute-t-il, ils y furent maintenus longtemps. Bess dit qu'ils y furent emprisonnés pour avoir refusé de prêter serment, juste après avoir débarqué à Deal en provenance de Nouvelle-Angleterre. William King, de Salem, mentionné au chapitre précédent comme ayant été emprisonné et fouetté, avait, nous le trouvons, conjointement avec Wenlock Christison de Salem, Mary Wright d'Oyster Bay, à Long Island, et Mance Standley, une jeune amie d'Angleterre, reçu la sentence de bannissement sous peine de mort. Mance Standley est sans aucun doute la servante mentionnée dans la lettre de Joseph Nicholson depuis Boston, qui était venue avec lui dans le navire. Après son bannissement, Wenlock Christison alla visiter ses frères à Sandwich. Ici toutefois, comme les Nicholson, il ne fut pas autorisé à rester. À son arrivée dans la ville, il fut arrêté et conduit à Plymouth, où il fut non seulement emprisonné pendant 14 semaines, mais soumis à un sévère fouet, et une fois attaché, le cou et les talons ensemble, et dépouillé de sa Bible et de ses vêtements pour une valeur de 4 livres, afin de payer les frais de prison. Tout cela, ajoute Bishop, seulement pour être entré dans leur juridiction, alors qu'il avait été banni de l'autre. Peter Xy, emprisonnement et souffrance de William Ledra à Boston, son interrogatoire devant la cour, il est condamné à mort, sa conduite au lieu d'exécution, lettre d'un témoin à ce sujet, le caractère de William Ledra à son épître aux amis, écrite la veille de son martyr et l'interrogatoire et le bannissement d'Edward Wharton, le retour de Wenlock Christison après son bannissement, son courage chrétien devant les autorités, interrogatoire et sentence, son adresse à la cour, le rétablissement de la monarchie. Christison et 27 amis de prison, la loi qui bannissait sous peine de mort est remplacée par une loi qui bannit sous peine d'être fouetté de ville en ville hors de la colonie, les souffrances des amis sous cette nouvelle loi, Nichola Phelps et Josiah Southwick reviennent après leur bannissement, la cruelle flagellation de ce dernier George Roff, d'Essex, visite la Nouvelle-Angleterre, sa lettre relative à ce service, la première assemblée générale des amis en Amérique tenue à Rhode Island. Dans les chapitres précédents, on a beaucoup rapporté de faits qui ternissent les pages de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre puritaine. Nous avons vu que ces zélateurs religieux, sous le couvert d'une haute spiritualité, avaient mené leur persécution jusqu'au meurtre de 3 personnes à la vie et à la conduite irréprochable, et dont on peut dire à juste titre, le monde n'était pas digne. L'injustice et la cruauté, sous quelque forme que ce soit, offrent un spectacle humiliant de la dépravation de l'homme, mais lorsqu'elle se présente à nous sous le masque d'une sainteté supérieure, l'esprit est porté à se détourner avec une horreur accrue d'une telle profanation du nom de la religion. Dans toute profession religieuse, les scrupules de conscience devraient être respectés, mais les persécutions du Massachusetts violèrent jusqu'aux lois les plus élémentaires de l'humanité. Les dirigeants de cette province, pour justifier leurs actes coupables, représentèrent les amis comme agissant sous une extrême illusion. Mais quelle illusion peut être plus grande ou plus choquante que de tuer nos semblables en croyant ainsi servir la cause sacrée de la religion ? De tous les actes par lesquels le grand adversaire exerce son influence sur l'homme, celui-ci nous paraît être la violation la plus flagrante de la loi divine. Nous avons employé le terme de meurtre, et nous l'avons fait à dessein, car le martyre des 3 amis sur le Boston Common avait été perpétré contrairement aux lois du royaume. La charte du Massachusetts n'autorisait nullement les autorités locales à édicter des lois contraires aux principes fondamentaux de la jurisprudence et des libertés anglaises. En poursuivant leur voie despotique, elles le faisaient aussi avec la conscience que cela heurtait le sentiment de la communauté. Vers la fin de 1660, cela se manifesta de manière si intelligible que, pendant un temps, ils jugèrent prudent de suspendre l'application de la loi ordonnant l'exécution des amis, et ainsi la vie de Joseph Nicholson fut sauvée. Il a été dit, au chapitre précédent, que, parmi ceux emprisonnés à Boston au dixième mois 1660, se trouvait William Ledra, qui était revenu dans la ville après avoir été exilé sous peine de mort. Cet homme fidèle semble avoir été, à un degré peu ordinaire, l'objet du déplaisir puritain. Lors de son précédent emprisonnement à Boston, les souffrances auxquelles il fut soumis avaient été si extrêmes que sa vie en avait été menacée. En cette occasion, il fut entravé à une bille de bois, enchaîné nuit et jour dans une prison ouverte, et cela aussi durant les rigueurs d'un hiver de Nouvelle-Angleterre. Ses persécuteurs auraient sans doute été satisfaits si ces inhumanités avaient mis fin à son existence, mais il plut à la providence divine de le soutenir au travers. Le 9 du premier mois 1661, il fut de nouveau traduit devant la cour des assistants. Ainsi accusé, avec ses chaînes autour de lui et toujours lié à la bille, on lui dit qu'étant revenu après une sentence de bannissement, il avait encouru la peine de mort. En entendant cela, le souffrant demanda quel mal il avait fait. La cour répondit, il avait approuvé ce qui avait été mis à mort, il avait refusé d'ôter son chapeau au tribunal et disait « zi et zao ». Il leur demanda alors s'il le mettrait à mort pour avoir parlé anglais et pour n'avoir pas ôté ses vêtements. À cela, l'un des magistrats fit l'absurde réponse « on peut parler de trahison en anglais ». William Ledra demanda ensuite si « c'était trahison que de dire di et thou à une seule personne ». Broad Street, magistrat violent et persécuteur, entreprit alors d'interroger le prisonnier et lui demanda s'il irait en Angleterre. Il répondit qu'il n'avait aucune affaire en Angleterre. Alors, dit Broad Street en désignant d'un geste significatif le Boston Common, vous irez par là. Quoi, répondit William Ledra, me mettrez-vous à mort pour avoir respiré l'air de votre juridiction. Qu'avez-vous contre moi? J'en appelle aux lois d'Angleterre pour mon procès. Si, selon elles, je suis trouvé coupable, je ne refuse pas de mourir. La cour arbitraire, toutefois, rejeta son appel. Puis, comme d'autres persécuteurs d'autrefois, elle s'efforça de le persuader de se rétracter et de se conformer à leur propre religion. Cette misérable tentative fut aussitôt repoussée, et repoussée avec magnanimité et dédain. « Quoi, m'unir à de tels meurtriers que vous êtes ?» dit William Ledra, « alors que chaque homme qui me rencontrera dise « voilà l'homme qui a abandonné le Dieu de son salut ». La cour, voyant sa victime inébranlable dans ses convictions religieuses, prononça contre lui la sentence de mort et fixa son exécution au 14 du mois. Ce jour-là, il fut aussi arrêté qu'une lecture sermon aurait lieu le matin, et maintenant, comme lors des occasions précédentes, le ministre officiant déploya son éloquence pour pousser la magistrature à poursuivre son œuvre terrible. Les prêtres, écrit un contemporain, les excitaient. La lecture, ou comme l'appelle un auteur moderne, ce préambule effroyable à l'exécution achevée, le gouverneur, avec une garde de soldats, se rendit à la prison. Là, les fers que William Ledra portait depuis longtemps furent brisés, et faisant ses adieux solennels à ses compagnons d'infortune, il est sorti pour être immolé dans la douceur de l'Esprit de Jésus. À peine avait-il franchi les murs de la prison qu'il fut aussitôt entouré par la soldatesque, afin de l'empêcher de parler à ses amis. Edward Wotton, observant la manœuvre, s'écria que c'était pire que la conduite des hommes de bonnet. « Quoi, dit-il, ne me laisserez-vous pas approcher mon ami souffrant avant de le tuer ?» L'un de la compagnie répondit que ce serait son tour ensuite, et un officier menaça de lui fermer la bouche s'il disait un mot de plus. La procession ressemblait à celle mentionnée plus haut, et parvenue au lieu d'exécution, William Ledra exhorta son ami Edward Wotton à la fidélité et lui fit ses adieux définitifs en disant « Tous ceux qui veulent être disciples du Christ doivent prendre leur croix ». Tandis qu'il se tenait sur l'échelle, quelqu'un ayant crié « William, avez-vous quelque chose à dire au peuple ?» Il répondit « C'est pour avoir rendu mon témoignage pour le Seigneur contre les trompeurs et les trompés que je suis amené ici pour souffrir. » Ces paroles, jointes à la disposition céleste qu'il manifesta en ce moment terrible, éveillèrent la compassion de nombreux spectateurs d'une manière qui adressait un vif reproche aux instigateurs de cette scène révoltante. Les ministres remarquèrent cette manifestation avec malaise, et Allen, qui était l'un d'eux, voulant arrêter le mouvement de sympathie, dit à haute voix « Jean, je ne voudrais pas que vous trouviez étrange de voir un homme si disposé à mourir, car ce n'est pas une chose nouvelle. Vous pouvez lire comment l'apôtre a dit que certains seraient livrés à bien des illusions et oseraient même mourir pour cela. » Il est vrai que l'apôtre a dit que beaucoup seraient livrés à des illusions, mais le prêtre persécuteur, dont le Dieu était la Bible, par malice probable, cita faussement l'apôtre comme ayant dit que cela oserait mourir pour elle, ce qui n'a jamais été dit. C'était le prétendu prêtre puritain du Christ qui croyait à l'illusion, au mensonge, au faux salut censé excuser une vie impie de péché, y compris la torture et le meurtre, qui ignorait les commandements du Christ d'aimer ses ennemis, qui ignorait l'obéissance, prenant plaisir à l'injustice. Et avec toute la séduction de l'injustice chez ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité afin d'être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur enverra une puissante illusion pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient condamnés ceux qui ne croient pas à la vérité, mais qui prennent plaisir à l'injustice. 2:2, dit le bourreau s'apprêta alors à achever son œuvre. Tandis qu'on ajustait le nœud coulant du pendard, le martyr dit avec douceur et résignation, « Je remets ma juste cause entre tes mains, ô Dieu. » Au moment où l'échelle basculait, ses dernières paroles furent « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Le corps, une fois décroché, fut laissé à ses amis pour l'inhumation. Cela, toutefois, n'aurait pas été accordé sans la protestation du peuple contre les barbares indécences dont on avait entouré les restes des victimes précédentes. Avant l'exécution, il courait fréquemment le bruit que William Ledra avait la liberté de quitter la prison et de sauver sa vie. C'était un grossier mensonge, propagé sans doute afin d'atténuer l'odieux de ses procédures criminelles. Un étranger était présent, très ému à la vue de la scène. Une lettre qu'il adressa à un ami à la Barbade, faisant allusion à ce bruit et décrivant l'exécution, a été conservée et sera lue avec intérêt. Boston, 26 mars 1661. Le 14 de ce mois-ci, un certain William Ledra a été mis à mort ici. Les habitants de la ville me disaient qu'ils pouvaient s'en aller s'ils le voulaient, mais, en m'informant davantage, j'ai entendu le maréchal dire qu'il était enchaîné en prison depuis le moment où il avait été condamné jusqu'au jour de son exécution. Je ne suis pas de son avis un Quake, mais pourtant, en vérité, j'ai pensé que le Seigneur apparaissait puissamment dans cet homme. Je suis allé trouver l'un des magistrats de Cambridge, qui avait fait partie du jury l'ayant condamné, comme il me l'a dit lui-même, et je lui ai demandé selon quelles règles il avait agi. Il m'a répondu que c'était un vaurien, un vrai vaurien. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la question? Ai-je dit, où est votre règle? Il a dit qu'il avait abusé de l'autorité. Alors je suis allé après l'homme et je lui ai demandé s'il ne considérait pas comme une infraction à la règle le fait de mépriser et de déprécier l'autorité, et j'ai dit que Paul avait donné à Festus un titre d'honneur, bien qu'il fût païen. Je ne veux pas dire que ces magistrats soient païens. Quand l'homme fut sur l'échelle, il me regarda et m'appela ami, et dit, « Sache qu'aujourd'hui je suis disposé à offrir ma vie pour le témoignage de Jésus. » Alors je demandai aux officiers la permission de parler, et je dis, « Messieurs, je suis étranger tant à vos personnes qu'à votre pays, mes amis de l'un et de l'autre, et je crie à haute voix, pour l'amour du Seigneur, n'ôtez pas la vie à cet homme, mais souvenez-vous du conseil de Gamaliel aux Juifs, si cela vient des hommes, cela sera réduit à rien, mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez le détruire, prenez garde de ne pas être trouvé combattant contre Dieu. » Et le capitaine dit, « Pourquoi n'êtes-vous pas venu à la prison? La raison était que j'avais entendu dire que l'homme pouvait partir s'il le voulait, et c'est pourquoi je l'ai appelé à descendre de l'arbre, et j'ai dit, « Descends, William, tu peux t'en aller si tu veux. » Alors le capitaine Olive dit qu'il n'en était rien, et il me demanda ce que j'avais à y voir, et me dit de m'en aller. Je leur dis que j'y consentais volontiers, car je ne pouvais supporter de voir cela. Quand j'étais dans la ville, certains semblaient compatir à ma peine. Je leur dis qu'ils n'avaient ni mandat de la Bible, ni précédent de notre pays, ni pouvoir de sa majesté pour pendre cet homme. Je demeure votre ami Thomas Wilkiam. George Ladd, capitaine de l'America de Dartmouth, actuellement à la Barbade. De l'histoire de William Ledra avant qu'il ne s'unisse en communion religieuse avec les amis, on sait fort peu de choses. Son foyer était à la Barbade, mais on dit qu'il était de naissance un cornouaillais, et son métier, semble-t-il, était celui de drapier. Nous le trouvons, très tôt, engagé à visiter les Antilles en qualité de ministre, et en 1657 il se rendit en cette qualité en Nouvelle-Angleterre. Les détails des souffrances qu'il endura en poursuivant ce travail d'amour ont déjà été exposés. La constance chrétienne et l'endurance patiente sous d'extrêmes souffrances pour la cause de son Seigneur distinguèrent remarquablement William Ledra. S'adressant à ses amis de Nouvelle-Angleterre depuis la prison de Boston, quelques semaines avant sa mort, il dit « Je témoigne dans la crainte du Seigneur Dieu, et j'atteste d'une plume tremblante que le bruit du fouet sur mon dos, tous les emprisonnements et le bannissement sous peine de mort, et après mon retour, la forte menace d'une corde au cou sortie de leur bouche, ne m'ont pas plus effrayé par la force de la puissance de Dieu que s'ils avaient menacé d'attacher une toile d'araignée à mon doigt, ce qui me fait dire de lèvres non fins. Je ne cherche pas à retirer ma joue à celui qui frappe, ni à détourner mes pieds des traces du troupeau, comme en témoignent cette chaîne et cette bille à ma jambe. Mais je désire, autant que le Seigneur m'y attire, suivre mes pères et mes frères, dans la souffrance et dans la joie. C'est pourquoi mon esprit attente et adore aux pieds d'Emmanuel, à qui je confie ma cause. » L'état d'esprit de William Ledra, dans l'attente de sa mort, peut à juste titre être qualifié de triomphant. Les joies célestes qu'il lui fut permis d'éprouver, et l'avant-goût qu'il eut d'une glorieuse immortalité, furent de ceux qui sont rarement accordés à l'humanité. La veille de son exécution, il écrivit ce qui suit, « À la société du petit troupeau du Christ que la grâce et la paix soient multipliées, très chers et bien-aimés aux plus intimes. les douces influences de l'étoile du matin, comme un flot, distillant dans ma demeure, m'ont si rempli de la joie du Seigneur dans la beauté de la sainteté, que mon esprit est comme s'il n'habitait pas une tente d'argile, mais était entièrement absorbé dans le sein de l'éternité, d'où il a reçu l'être. Hélas, hélas, que peuvent la colère et l'esprit de l'homme, portés à l'envie, aggravés par l'ardeur et la force du roi des sauterelles sortis de l'abîme, contre celui qui est caché dans les secrets du Tout-Puissant, ou contre ceux qui sont rassemblés sous les ailes guérissantes du Prince de la Paix. Sous quelle armure de lumière ils pourront tenir au jour de l'épreuve, ayant revêtu la cuirasse de la justice et l'épée de l'esprit, qui est leur arme de guerre contre la méchanceté spirituelle, les principautés et les puissances, et les dominateurs des ténèbres de ce monde, au-dedans comme au-dehors, ô mes bien-aimés. J'ai attendu comme une colombe aux fenêtres de l'arche, et je suis resté immobile dans cette veille que le Maître, sans que je ne pouvais rien faire, a lors de sa venue récompensée par la plénitude de son amour, et mon cœur s'en est réjoui, afin que je puisse dans l'amour et la vie de Dieu vous adresser quelques paroles scellées par l'esprit de promesse, afin que leur goût soit une saveur de vie pour votre vie, et un témoignage en vous de ma mort innocente. Et si j'avais été entièrement silencieux, et que le Seigneur ne vous eût pas ouvert ma bouche, il aurait pourtant ouvert vos cœurs, et y aurait scellé mon innocence par les flots de vie, par lesquels nous sommes tous baptisés dans ce corps qui est de Dieu, avec qui est dans la présence de qui est la vie, et dans lequel, si vous demeurez, vous tenez sur la colonne et le fondement de la vérité. Car la vie étant la vérité et le chemin, ne faites pas un pas sans elle, de peur de tourner autour d'une montagne dans le désert, car à toute chose il y a une saison. Comme le flux de l'océan remplit chaque crique et chacune de ses branches, puis se retire de nouveau vers son propre être et sa plénitude et y laisse une saveur, ainsi la vie et la vertu de Dieu affluent dans chacun de vos cœurs, vous qui la fait participant de sa nature divine, et quand elle se retire ne fût-ce qu'un peu, elle laisse derrière elle une douce saveur, de sorte que beaucoup peuvent dire qu'ils sont devenus purs par la parole qu'il leur a adressée, dans cette condition innocent, vous pouvez voir ce que vous êtes en la présence de Dieu, et ce que vous êtes. Afin de la sanctifier et de la purifier l'Église des croyants par le lavage d'eau dans la parole. Éph 5:26, cela parle de la parole intérieure, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu puisses l'entendre et lui obéir. Rome 10:8. À mesure que vous entendez, écoutez et obéissez à la parole, vous êtes rendus purs. Ainsi donc, mes chers cœurs, que la jouissance de la vie seule soit votre espérance, votre joie et votre consolation, et que l'homme de Dieu fuit les choses qui tireraient l'esprit hors de la croix, car alors la saveur de la vie serait ensevelie. Et bien que certains puissent parler, comme d'expérience, de choses qu'ils ont reçues dans la vie pourtant, la vie étant voilée, et la saveur qui demeure étant emportée par les nouveaux flots de la tentation, l'état dont ils jouissaient dans la vie, quoique vanté par l'esprit léger, sera comme la manne ramassée hier, sans bonne odeur ni saveur. Car l'homme ne va bien que tant qu'il est dans la vie de l'innocence, mais chassé de la présence astérisque du Seigneur dans la terre, de quoi peut-il se glorifier ? Astérisque l'aidera dit que, si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous sommes sans rédemption. Cherchez sa face, afin d'être continuellement dans sa présence. 1 Chr 16:11. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et bien que vous sachiez ces choses, et que beaucoup d'entre vous en sachent bien plus que je ne puis en dire, pourtant par l'amour et le zèle que je porte à la vérité et à l'honneur de Dieu, et par le tendre désir de mon âme pour ceux qui sont jeunes, afin qu'ils me lisent dans ce doux j'écris astérisque et qu'ils en soient fortifiés contre les ruses du serpent subtil qui séduisit Ève, je dis, tenez-vous debout et veillez au-dedans dans la crainte du Seigneur, qui est la véritable entrée de la sagesse, et l'état où vous êtes prêts à recevoir. Ayez faim et soif patiemment, ne vous lassez pas, ne doutez pas non plus. Tenez-vous immobile, cessez vos propres œuvres, et en temps voulu vous entrerez dans le repos, et vos yeux verront son salut, dont les témoignages sont sûrs et entièrement justes. Qu'il soit comme un sceau sur votre bras, et comme des joyaux autour de votre cou, afin que d'autres voient ce que le Seigneur a fait pour vos âmes. Confessez-le devant les hommes, oui, devant ses plus grands ennemis, ne craignez pas ce qu'ils peuvent vous faire, plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Il vous revêtira d'humilité, et dans la puissance de sa douceur, vous régnerez sur toute la fureur de vos ennemis, dans la faveur de Dieu, dans laquelle, si vous demeurez dans la foi, vous êtes le sel de la terre, car beaucoup, voyant vos bonnes œuvres, pourront glorifier Dieu au jour de leur visitation. Astérisque dans ce doux j'écris, c'est la présence de Dieu dans le royaume. Gardez-vous de recevoir ce que vous n'avez pas vu dans la lumière, de peur d'écouter l'ennemi. Amenez toutes choses à la lumière, afin qu'elles soient éprouvées, pour savoir si elles sont opérées en Dieu, l'amour du monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux sont hors de la lumière, dans le monde. Possédez donc vos vases dans toute sanctification et tout honneur, et que vos yeux regardent au but objectif. Celui qui vous a appelés est saint, et s'il y a un œil qui scandalise, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Ne laissez pas une tentation s'emparer de vous, car si vous le faites, elle vous privera de la faveur de Dieu, et ce sera un état triste, Car sans la grâce possédée, il n'y a aucune assurance de salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et le témoignage de cette grâce vous suffit, à quoi je vous recommande tous mes chers amis, et j'y demeure votre frère William Ledra, prison de Boston, le 13 du 1er mois 1661 mai, de même que celui qui vous a appelé est saint, soyez saint vous aussi dans toute votre conduite. 1 Pé 1:15 Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hebdous 12:14 Ainsi mourut ce chrétien dévoué, qui avait déjà fait l'expérience de la première mort, du baptême, de l'ensevelissement et de la résurrection subséquente. Il vivait manifestement dans le royaume, le paradis, dans la présence de Dieu. Pour de tels, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Pendant la session de la Cour générale au cours de laquelle William Ledra fut condamné, Edward Wotton, qui était prisonnier à Boston depuis près d'un an, fut traduit pour jugement. Homme d'un grand courage chrétien, il parla hardiment contre ses persécutions et par conséquent, il était fort odieux aux ecclésiastiques et aux dirigeants. Lorsqu'il fut amené, il demanda au gouverneur ce qu'il avait à lui reprocher. Endicott répondit en se référant au fait qu'il n'avait pas ôté son chapeau et observa hypocritement qu'il était désolé de le voir si abusé. Edward Wotton. Porter mon chapeau n'est pas une cause juste pour me persécuter, la vérité n'a abusé personne, et par la grâce de Dieu je suis rendu disposé à souffrir pour l'amour de son nom, grâce dont je rends témoignage à ma mesure. Endicott, d'un ton moqueur. À ma mesure, voilà bien les mots des Quakers. As-tu de la grâce, Wotton? Oui, Endicott. Comment sais-tu que tu as de la grâce, Wotton, celui qui croit au Fils de Dieu n'a pas besoin d'aller vers d'autres, car il a le témoignage en lui-même, comme l'a dit Jean, et ce témoignage est l'Esprit. Endicott ayant ordonné qu'on fasse venir le geôlier, Edward Wotton, désireux de connaître le fondement de son incarcération, s'adressa à lui en ces termes. « Puisque vous avez un mandat et que vous avez fait venir le constable pour me tirer de ma maison et me conduire à travers le pays, de ville en ville, comme un malfaiteur, je voudrais savoir ce que vous avez à m'imputer. » À cela, Endicott répondit, « Non, vous le saurez plus tard. » On ordonna alors au geôlier de le reconduire en prison, où il fut gardé jour et nuit étroitement enfermé avec William Ledra, dans une toute petite chambre, à peine plus grande qu'une fosse à scie. Lorsqu'on le ramena bientôt devant la cour, Edward Wotton répéta sa question, « Pourquoi ai-je été arraché à mon foyer, où j'exerçais honnêtement mon métier, et ici emprisonné comme un malfaiteur, la cour? Tes cheveux sont trop longs, et tu as désobéi à ce commandement qui dit, « Honore ton père et ta mère. » Wotton, comment cela, la cour? En ce que tu ne veux pas ôter ton chapeau devant les magistrats. Wotton, j'aime et je reconnais tous les magistrats et gouvernants qui sont pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. Rawson, Edward Wotton approche de la barre. Wotton, oui et du banc aussi car vous n'avez aucun mal à mettre justement à notre charge. Rawson, lève la main. Wotton. Je ne le ferai pas, vous n'avez aucun mal à m'imputer. Rawson, écoute ta sentence de bannissement. Wotton, prenez garde à ce que vous faites car si vous me tuez, mon sang pèsera lourdement sur vous. Rawson, Edward Wotton, prête attention à ta sentence de bannissement. Tu dois, sous peine de mort, quitter cette juridiction, étant le 11e de ce mois mars avant le 21e du même mois sous peine de mort. Wotton, ami, je suis un homme seul, et j'ai des affaires avec certaines personnes, il serait bon que j'aie le temps de mettre tout en règle avec tous, puis, si vous avez le pouvoir de me tuer, vous le pourrez. Endicott, après avoir consulté Rawson, si nous lui donnions 100 jours, ce serait tout un. Wotton, non, je ne partirai pas, prenez donc garde à ce que vous faites. Le prisonnier s'adressa alors à la nombreuse assemblée sur l'injustice de la procédure, et ils n'ont absolument rien à m'imputer, dit-il, sinon mon chapeau et mes cheveux. Rawson, attirant alors l'attention de la cour, lut l'acte qu'il avait rédigé, que, contrairement à la loi, le prisonnier avait voyagé ça et là avec William Robinson et Marmaduke Stevenson. Edward Wotton répliqua, « Pourquoi lisez-vous cela ?» Et, faisant allusion au fouet qu'il avait subi en 1659, il dit « N'avez-vous pas déjà labouré des sillons sur mon dos pour cela, alors même que vous n'aviez pas de loi ?» Cette réponse ayant réduit Rawson au silence, Bellingham, le lieutenant-gouverneur, intervint en menaçant de le renvoyer en prison et de le faire fouetter. Il fut cependant relâché et sommé de quitter immédiatement la colonie, mais, sans se laisser intimider par leurs menaces ni par leurs lois, il assista à l'exécution de son ami William Ledra, où il rendit un témoignage inébranlable contre de telles atrocités, puis retourna chez lui à Salem. Le cas d'Edward Wotton était déplaisant pour Endicott et ses collègues magistrats, mais ils furent encore plus embarrassés par celui de Wenlock Christison, qui nul ne se distingua davantage par la douceur et la fermeté chrétienne au temps de ses cruautés. Au chapitre précédent, il est dit qu'il avait été banni sous peine de mort, et qu'en se rendant dans la colonie voisine de Plymouth, il en avait été aussi chassé. Wenlock Christison, ne tenant pas sa vie pour précieuse pour l'amour de la vérité, crut que le Seigneur exigeait de lui qu'il revînt à Boston, bien qu'il s'attendît à être bientôt ajouté à la liste des martyrs. Il revint avec hardiesse et entra dans la cour générale pour affronter ses persécuteurs, au moment même où il prononçait la sentence de mort contre William Ledra. Les magistrats, le voyant entrer, furent saisis de consternation. L'événement inattendu les pétrifia à tel point que, pendant quelque temps, il régna un silence complet. Leur extrême surprise céda toutefois bientôt la place à d'autres sentiments, et l'un des membres de la cour s'écria « En voici un autre, amenez-le à la barre. » Rawson, ne t'appelles-tu pas Wenlock Christison Wenlock? Oui, Endicott, n'as-tu pas été banni sous peine de mort, Wenlock? Oui, je l'ai été, Endicott. Que fais-tu donc ici, Wenlock? Je suis venu vous avertir de ne plus répandre de sang innocent, car le sang que vous avez déjà versé crie au Seigneur pour vengeance. Remis à la garde du geôlier, il fut alors conduit en prison. Le même jour où William Ledra fut mis à mort, il fut de nouveau placé à la barre, les magistrats présumant que l'exécution de son compagnon le terrifierait et l'amènerait à se soumettre, mais, comme on le verra, ils se trompaient grandement sur le caractère de leur prisonnier. Cette fois, Endicott et Bellingham s'efforcèrent de faire vaciller sa fermeté chrétienne. « À moins qu'il ne renonce à sa religion, dirent-ils, il mourrait sûrement. » Mais sans se laisser démonter par leurs menaces, il répondit « Non, je ne changerai pas de religion, ni ne chercherai à sauver ma vie, je n'ai pas non plus l'intention de renier mon maître, mais si je perds ma vie pour l'amour du Christ et pour la prédication de l'Évangile, je la sauverai. » La réponse du prisonnier toucha le cœur de certains magistrats, et divisés d'opinion sur le point de le mettre à mort, ils ordonnèrent qu'il fût renvoyé jusqu'à la prochaine cour générale. Endicott, semble-t-il, fut si déconfit par la conduite de ceux du banc qui prirent le parti le plus humain qu'il refusa, durant 2 jours, de présider de nouveau. Le moment étant venu, Wenlock Christison fut tiré de sa prison et placé à la barre, le gouverneur lui demanda ce qu'il avait à dire pour lui-même, pourquoi il ne devrait pas mourir. « Wenlock, je n'ai rien fait qui mérite la mort, si je l'avais fait, je ne refuserais pas de mourir. » Endicott, tu es venu parmi nous en rébellion, ce qui est comme le péché de sorcellerie, et doit être puni. » Wenlock, je ne suis pas venu parmi vous en rébellion, mais en obéissance au Dieu du ciel, non par mépris pour quiconque d'entre vous, mais par amour pour vos âmes et vos corps, et vous le saurez un jour, quand vous et tous les hommes devrez rendre compte des actes accomplis dans le corps. Prenez garde, car vous n'échapperez pas au juste jugement de Dieu. Major général Aderton, tu prononces des malheurs et des jugements. Ceux qui sont morts avant toi ont aussi prononcé des malheurs et des jugements, mais les jugements du Seigneur ne sont pas encore venus sur nous, Wenlock. Ne soyez pas orgueilleux, et que vos esprits ne s'élèvent pas. Dieu n'attend que le moment où la mesure de votre iniquité sera comblée, et où vous aurez achevé votre course impie. Alors la colère de Dieu viendra sur vous dans toute sa plénitude. Et quant à toi, sa colère est suspendue au-dessus de ta tête, prête à se déverser sur toi, et elle viendra soudainement comme un voleur dans la nuit astérisque quand tu ne t'y attendras pas. Par quelle loi me mettrez-vous à mort? Astérisque, les événements prouvent que Wenlock Christison parlait en prophète au major général Aderton, l'un des juges puritains, sous la direction de cette sagesse qui vient d'en haut. Quelque temps après, ce persécuteur insensé et endurci fut soudainement détruit d'une manière très remarquable. Un jour, rentrant chez lui après avoir exercé la troupe, son cheval prit peur et le jeta si violemment qu'il mourut sur le coup. Son cadavre sans vie offrait un spectacle horrible. Ses yeux avaient été arrachés de la tête et sa cervelle sortait par le nez, tandis que le sang coulait abondamment de ses oreilles. « Cours, nous avons une loi et selon notre loi, tu dois mourir. » Wenlock. Ainsi disaient les Juifs au sujet du Christ, « Nous avons une loi, et selon notre loi il doit mourir. Qui vous a donné le pouvoir de faire cette loi, cours? Nous avons un brevet et nous sommes titulaires, jugez si nous n'avons pas le pouvoir de faire des lois, Wenlock. Comment avez-vous le pouvoir de faire des lois contraires aux lois d'Angleterre, Endicott? Non, Wenlock. Alors vous avez dépassé vos limites, et vous avez perdu votre brevet, et cela est plus que vous ne pouvez justifier. Êtes-vous sujet du roi, oui ou non, Rawson? Que veux-tu en conclure, à quoi cela te servira-t-il, Wenlock? Si vous l'êtes, dites-le, car dans votre pétition au roi, vous souhaitez qu'il vous protège et que vous soyez digne de vous agenouiller parmi ses loyaux sujets. Cours, oui, Wenlock, moi aussi, et pour autant que je sache, je vaux autant que vous, sinon davantage, car si le roi connaissait vos cœurs comme Dieu les connaît, il verrait que vos cœurs sont aussi pourris envers lui qu'ils le sont envers Dieu. Donc, puisque vous et moi sommes sujets du roi, j'exige d'être jugé selon les lois de ma propre nation. Cours, tu seras jugé par un banc et un jury. Wenlock, ce n'est pas la loi, mais la manière. Car si vous voulez être aussi bon que votre parole, vous devez me remettre en liberté, car je n'ai jamais entendu ni lu qu'il y eût en Angleterre une loi pour pendre les Quakers, Endicott. Il y a une loi pour pendre les Jésuites, Wenlock. Si vous me mettez à mort, ce ne sera pas parce que je porte le nom de Jésuite, mais celui de Quake, je fais donc appel aux lois de ma propre nation. Cours, tu es entre nos mains, tu as enfreint nos lois, et nous te jugerons, Wenlock. Votre volonté est votre loi, et ce que vous avez le pouvoir de faire, vous le ferez. Et puisque le jury doit statuer sur ma vie, voici ce que j'ai à vous dire dans la crainte du Dieu vivant. Jurez, prenez garde à ce que vous faites, car vous jurez par le Dieu vivant que vous ferez un procès fidèle et rendrez un verdict juste selon les preuves. Qu'ai-je fait pour mériter la mort? Gardez vos mains hors du sang innocent. Un juré, c'est un bon conseil. Le jury se retira, mais non avant d'avoir reçu sa leçon. Il revint bientôt et soit par crainte d'offenser la cour, soit par préjugé contre les Quakers, déclara le prisonnier coupable. Wenlock, je nie toute culpabilité car ma conscience est pure aux yeux de Dieu, Endicott. Le jury t'a condamné. Wenlock, le Seigneur me justifie, qui es-tu pour me condamner? La cour procéda alors à voter la sentence de mort. Il y eut cependant plusieurs opposants à cette mesure extrême, car l'innocence et la magnanimité chrétienne du prisonnier avaient produit dans leurs esprits un sentiment contraire. Endicott, contrarié et déçu par ce manque d'unanimité, jetant avec colère quelque chose sur la table, dit à la cour qu'il pourrait bien rentrer chez lui. Wenlock répondit, « Il vaudrait mieux pour vous être chez vous qu'ici, car vous êtes en train de faire une œuvre sanglante, Endicott. Ceux qui ne consentent pas qu'ils le consignent, je rends grâce à Dieu, je ne crains pas de rendre jugement. Wenlock Christison, écoute ta sentence, tu dois retourner au lieu d'où tu es venu, et de là au lieu d'exécution, et là tu seras pendu jusqu'à ce que tu sois mort le 13e jour de juin, étant le 5e jour de la semaine. Wenlock, que la volonté du Seigneur soit faite. C'est selon sa volonté que je suis venu parmi vous, et c'est dans son conseil que je demeure, sentant sa puissance éternelle, qui me soutiendra jusqu'au dernier souffle, je n'en doute pas. Qu'il soit connu de vous tous que, si vous avez le pouvoir de m'ôter la vie, mon âme entrera dans le repos et la paix éternelle avec Dieu, où vous-même n'entrerez jamais, et si vous avez le pouvoir de m'ôter la vie, ce dont je doute, je crois que vous n'ôterez plus jamais la vie aux Quakers. Notez mes paroles, ne pensez pas lasser le Dieu vivant en ôtant la vie à ses serviteurs. Qui gagnez-vous? Car pour le dernier homme que vous avez mis à mort, en voici cinq autres qui sont venus prendre sa place astérisque, et si vous avez le pouvoir de m'ôter la vie, Dieu peut susciter ce même principe de vie tandis de ses serviteurs et les envoyer parmi vous à ma place, afin que vous ayez tourment sur tourment, ce qui est votre part, car il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Astérisque les cinq étaient Elizabeth Houghton, Joan Broxop, Mary Mellin, Catherine Chatham et John Bust ou Endicott. Emmenez-le. Wenlock Christison fut reconduit dans sa cellule, où, dans une douce paix et une pieuse résignation de l'âme, il attendit l'arrivée du jour où il serait appelé à offrir sa vie pour l'amour de son cher Rédempteur. Les circonstances, toutefois, qui suivirent, montrent qu'en s'adressant une dernière fois au tribunal, il parla sous cette sainte influence qui est profitable pour être dirigée, et qui confirme la déclaration de l'Écriture, selon laquelle il y a un esprit en l'homme, et l'inspiration du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Le jour approchait, où il avait été décidé de faire subir à Wenlock Christison une autre des scènes effroyables du Boston Common. Mais tandis que les dirigeants aveuglés de la colonie poursuivaient ainsi leur carrière barbare, non seulement la nouvelle de leur cruauté était parvenue jusqu'au rivage de la vieille Angleterre, mais un écho de l'indignation qu'elles y avaient soulevée se faisait désormais entendre au Massachusetts. La chute du gouvernement puritain dans la mère patrie et l'avènement de Charles Yee furent des événements dont les gouverneurs bigots de la province apprirent, à cette époque, la nouvelle avec beaucoup d'inquiétude. Ils savaient qu'indépendamment de leur persécution contre les Quakers, ils avaient violé les lois du royaume et s'étaient arrogés des pouvoirs que la charte ne leur conférait pas. La sympathie existant entre les puritains de la Nouvelle-Angleterre et le gouvernement de la métropole avait, durant les années du protectorat, apaisé tout sentiment d'inquiétude et calmé toute appréhension. Mais la situation était maintenant changée. Les royalistes étaient de nouveau au pouvoir et au lieu d'avoir dans le gouvernement britannique de puissants partisans de leur cause, ils avaient affaire à des autorités qui les surveillaient d'un œil jaloux et dont ils ne pouvaient attendre, à tout le moins, aucun favoritisme. Ils sentirent donc, naturellement, que leur position était critique et qu'il ne fallait pas perdre de temps à tenter de racheter leur réputation de bons sujets coloniaux. La vie de Wenlock Christison fut sauvée et plus encore, la veille du jour fixé pour son exécution, un ordre fut donné pour sa libération ainsi que celle de 27 autres amis alors détenus dans la prison de Boston. Les noms de la plupart de ceux qui furent libérés à cette occasion étaient John Chamberlain, John et Margaret Smith, Mary Trask, Judith Brown, Peter Pearson, George Wilson, John Bust, Elizabeth Houghton, Mary Mallin, Joan Broxop, Catherine Chatham, Mary Wright, Anna Wright, Sarah Burden, Sarah Coleman et trois ou quatre de ses enfants, Ralph Allen, William Allen et Richard Kirby. La crainte qui poussa les zélotes de la Nouvelle-Angleterre à abandonner leur course meurtrière contre des victimes sans résistance eut pour effet, non pas de les amener à renoncer entièrement à la persécution religieuse, mais de la rendre moins manifestement illégale. En remplacement de la loi de bannissement sous peine de mort, ils en adoptèrent une nouvelle, prévoyant le bannissement sous peine d'être fouetté de ville en ville, hors de la province. Quand les officiers vinrent ouvrir les portes de la prison à Wenlock Christison et à ses compagnons, ils les informèrent que leur libération était due à l'adoption de la nouvelle loi. En entendant cela, Wenlock dit « Que signifie ceci ? Vous avez trompé le peuple. Il croyait que la potence avait été votre dernière arme. Vos magistrats disaient que votre loi était une bonne et salutaire loi, faite pour votre paix et la sauvegarde de votre pays. Quoi, vos mains sont-elles devenues faibles à présent ? La puissance de Dieu est sur vous tous. » Peter Pearson et Judith Brown, deux de ceux qui furent relâchés, furent néanmoins d'abord fouettés dans les rues de Boston, tous deux ayant été dénudés jusqu'à la taille et attachés à la queue d'une charrette en préparation de ce châtiment inhumain. Ses amis étaient étrangers à la colonie et la raison pour laquelle ils furent ainsi choisis pour recevoir le fouet, nous présumons, est qu'ils avaient été auparavant bannis. Afin que le nouvel acte paraisse avoir l'autorité de la loi anglaise, ceux qui en souffraient furent à tort stigmatisés comme vagabonds. Grandes furent les rigueurs auxquelles ces dispositions soumirent encore les amis, comme on le verra dans les pages suivantes. En effet, ce ne fut qu'une fois que ceux qui avaient été au premier rang pour susciter ces persécutions furent appelés par l'ange de la mort à comparaître devant un tribunal supérieur que de telles inhumanités cessèrent dans ce pays si hautement professant. Les fidèles messagers du Seigneur, ainsi libérés de façon inattendue de leur servitude, se mirent presque aussitôt, en sortant de la prison, à prêcher aux habitants ces vérités pour lesquelles ils avaient souffert. Les magistrats, déjà à bout de ressources dans leurs efforts infructueux pour arrêter la propagation des principes Quakers, impatients devant cette nouvelle manifestation de dévouement, ordonnèrent à une garde de soldats de chasser tous les amis hors de leur territoire, dans le désert, ordre qui fut promptement exécuté. John Chamberlain, habitant de Boston, et George Wilson furent du nombre de ceux qui furent ainsi expulsés de force, mais sans se laisser abattre par la nouvelle loi du fouet, ils retournèrent aussitôt chez eux. Là, ils furent rapidement arrêtés et condamnés à subir une flagellation à travers trois villes, puis à être expulsés des limites de la colonie. Le bourreau, désireux de déployer son ingéniosité pour accroître la sévérité de la sentence, se procura un fouet d'une construction singulière, ou comme on l'appelle, un « instrument cruel », avec lequel il déchira misérablement les corps des deux suppliciés. Tel était le caractère nouveau et barbare de l'arme employée en cette occasion que des amis tentèrent, mais en vain, de l'obtenir afin de l'envoyer en Angleterre comme une preuve supplémentaire de la cruauté maligne qui animait les dirigeants du Massachusetts envers la nouvelle société. À la fin du fouettement à Boston, George Wilson, au milieu de ses persécuteurs, s'agenouilla dans une solennelle supplication au très haut. John Chamberlain fut convaincu des principes des amis en assistant à la fin triomphante de William Robinson et de Marmaduke Stevenson. En commun toutefois, avec d'autres à Boston qui embrassèrent ses opinions, il lui échut de souffrir cruellement pour ses convictions de conscience. Dans les deux ans suivant sa conversion, non seulement il fut emprisonné et banni, mais soumis à de cruels fouettements à travers trois villes du Massachusetts. Pourtant, observe un contemporain, loin de le frapper au point de le détourner de la vérité, cela le poussa plutôt à s'en rapprocher. Au travers de toutes ses souffrances, il semble avoir été soutenu dans une grande gaieté chrétienne. Josiah Southwick et Nicholas Phelps, qui, lors de leur bannissement en 1659, partirent pour l'Angleterre, avec Samuel Shattuck, afin d'obtenir réparation de leurs griefs, étant demeurés sans succès dans leur démarche en raison de la faveur encore accordée à la province de la Nouvelle-Angleterre, revinrent dans leur foyer à peu près à l'époque où la nouvelle loi sur le fouet fut adoptée. Nicholas Phelps, dont la constitution était très affaiblie, mourut peu après. Josiah Southwick, désireux que les dirigeants sachent qu'il était revenu, se rendit à Boston et se présenta hardiment devant eux. Il fut bientôt arrêté et, après un emprisonnement de 9 semaines, fut traduit devant la cour des assistants au 7e mois 1661. Le gouverneur lui dit qu'il aurait été jugé pour sa vie si leur nouvelle loi n'avait pas été adoptée, puis prononça contre lui la sentence du fouet. Josiah, les bras étendus, et avec un esprit qui s'élevait au-dessus de leur cruauté, dit « Voici mon corps, si vous voulez un témoignage plus ample de la vérité que je professe, prenez-le et mettez-le en pièces, il est librement abandonné, et quant à votre sentence, je n'en fais aucun cas. Elle ne m'effraie pas plus que si vous aviez pris une plume et l'aviez soufflée en l'air. La langue ne peut exprimer, dit-il, ni déclarer la bonté et l'amour de Dieu envers son peuple souffrant. La sentence fut exécutée, comme d'ordinaire, avec une grande sévérité, mais le fidèle souffrant fut si divinement soutenu que, pendant qu'on la lui infligeait, il éclata en louanges au Seigneur. Ceux qui savent que Dieu est leur force, dit-il, ne peuvent craindre ce que l'homme peut faire. Le premier jour, il fut fouetté à travers Boston et Roxbury, et le lendemain matin à Dedham, d'où on le transporta à 15 000 dans le désert. Méprisant toutefois les menaces et demeurant insensible à la conduite cruelle des magistrats, il retourna aussitôt chez lui à Salem, où il arriva le matin suivant. Tandis que ces scènes se déroulaient au Massachusetts, la vérité gagnait steadily du terrain dans le territoire plus charitable de Rhode Island. George Roffe, de Halstead dans l'Essex, l'un des tout premiers ministres de la société, ayant beaucoup voyagé dans son propre pays et sur le continent européen, visita cette colonie ainsi que quelques régions voisines en 1661. Plus tard, se trouvant à la Barbade, il écrivit à Richard Robeson, et comme sa lettre contient quelques détails intéressants sur ses engagements religieux en Amérique, elle est reproduite ci-après, de George Roffe à Richard Robeson. Cher frère R. H. L'hiver dernier, j'ai passé l'hiver dans le Maryland et la Virginie, rendant de grands services pour l'affermissement de Beaucoup et amenant d'autres à la vérité. Il y a en ces régions de nombreux amis en qui se trouve la vie précieuse. De là, j'ai pris la mer dans une petite embarcation, avec seulement 2 amis, pour les nouveaux Pays-Bas, puis vers la Nouvelle-Angleterre, ayant eu un bon service tant parmi les Hollandais que parmi les Anglais, car j'étais dans la principale ville des Hollandais et j'y ai fait retentir un bon son, mais ils m'ont chassé. Nous avons donc tenu des réunions à travers les îles, avec un bon service, et nous sommes arrivés à Rhode Island, et nous avons fixé une assemblée générale pour tous les amis de ces régions, qui fut une très grande réunion et très précieuse. Elle dura 4 jours, et le Seigneur était avec son peuple et le bénit, et tous se séparèrent en paix. Il y a une bonne semence dans ce peuple, mais l'ennemi en maintient certains sous sa domination par leur cruelle persécution, pourtant leur honnêteté les préserve, et la semence se lèvera, à mesure qu'un chemin s'ouvrira pour que la visitation de la puissance du bien ait libre cours parmi eux. De là je suis arrivé il y a environ 4 mois dans cette île, où la vérité a bonne domination, et les amis sont très précieux et grandissent dans le ressenti et la sensibilité à la puissance de Dieu. Adieu, je suis en grande hâte à présent. Votre frère qui vous aime véritablement, George Roffe Barbade, une circonstance mentionnée dans cette lettre mérite notre attention particulière. George Roffe fait référence à une assemblée générale tenue à Rhode Island, pour tous les amis de ces régions. Plusieurs réunions de ce caractère avaient déjà été réunies en Angleterre. La première dont nous ayons quelques récits eut lieu à Swannington, dans le Leicestershire, en 1654. Il s'en tint une à Edge Hill, dans le même comté, en 1656, une autre cette année-là à Balby, dans le Yorkshire, et en 1658 une réunion très mémorable fut convoquée à la maison de John Crook, dans le Bedfordshire. Celle à laquelle George Roffe fait toutefois allusion semble avoir été la première du genre tenue sur le continent américain. Bishop fait allusion à cette réunion et dit, à la date de 1661, vers cette époque l'Assemblée générale de Rhode Island fut instituée. Le nombre des participants y fut si considérable qu'à Boston, les ennemis de la société soulevèrent l'alarme que les Quakers se rassemblaient pour tuer le peuple. Il est à regretter qu'aucun récit plus détaillé de cette très grande réunion n'ait été conservé, car sans doute, bien qu'il s'agît probablement pour l'essentiel d'une réunion de culte, les événements des 4 jours qu'elle occupa auraient offert à notre observation bien des points d'intérêt. Chapitre XI. Les autorités du Massachusetts s'adressent à Charlie, leur déformation des amis dans cette adresse. Edward Burrough écrit au roi et réfute leur déclaration. Les persécutions de la Nouvelle-Angleterre attirent l'attention du roi. La nouvelle de la mort de l'Edra parvient en Angleterre. Edward Burrough a un entretien avec le roi et obtient un mandamus pour mettre fin à ces atrocités. Edward Burrough a un autre entretien avec le roi Samuel Chatt, colon exilé, est nommé par le roi pour porter le mandamus en Nouvelle-Angle. Les dirigeants du Massachusetts, peu après la restauration de la monarchie sous Charlie, adressèrent au roi une adresse exprimant leur loyauté envers sa personne et son gouvernement. Dans cette adresse, ils firent allusion au fait d'avoir mis à mort quelques amis à Boston, ce dont ils savaient que cela avait suscité beaucoup d'attention en Grande-Bretagne. Et afin de justifier leur conduite à cet égard, ils présentèrent les amis de la Nouvelle-Angleterre comme un peuple des plus odieux et des plus audacieux. Blasphémateurs déclarés, séducteurs déclarés s'éloignant de la glorieuse Trinité, du Christ du Seigneur, du bienheureux Évangile et des Saintes Écritures comme règle de vie, ennemis déclarés du gouvernement lui-même, tel qu'établi entre les mains de tous, sauf d'hommes de leurs propres principes, promoteurs malveillants de doctrines tendant directement à renverser à la fois notre Église et notre État. Par ce ton et ses épithètes, ils cherchèrent à diffamer, devant le roi, les objets de leur haine. La présentation de cette adresse fut suivie avec un vif intérêt par les amis en Angleterre. Edward Burrough s'impliqua profondément dans la cause de ses frères souffrant en Amérique, et, afin de désabuser le roi, lui envoya quelques considérations sur l'adresse en question. « Au roi, commence-t-il, l'occasion que j'ai de vous présenter ces considérations est très pressante et de grande nécessité, même au nom du sang innocent, à cause d'un écrit qui vous a été présenté, intitulé « L'humble pétition et adresse de la Cour générale à Boston, en Nouvelle-Angleterre », dans lequel sont contenues de nombreuses calomnies, des reproches injustes, des contre-vérités manifestes et des diffamations malveillantes contre un peuple innocent. Il est difficile de rapporter les cruautés commises contre ce peuple par ces pétitionnaires. Ils ont pillé leurs biens, emprisonné beaucoup de personnes, les ont fouettés, leur ont coupé les oreilles, les ont brûlés, oui, ils les ont bannis et assassinés. Tout cela, je le déclare vrai et l'affirme devant vous, ô roi, totalement injustement et iniquement, et sans transgression d'aucune loi juste de Dieu ou des hommes, mais uniquement pour et à cause d'une différence de jugement et de pratique concernant les choses spirituelles. Après avoir réfuté les accusations de blasphème, etc., Edward Burroughs en aborde une autre, selon laquelle il serait des personnes des « impétueux et désespérés turbulences envers l'État, civil et ecclésiastique », qu'on considère, dit-il, quelle était leur dangereuse et désespérée turbulence envers les États civils et ecclésiastiques. Ces pauvres gens, que l'on a condamnés et livrés à une mort infâme, ont-ils jamais levé la main contre eux, ou manifesté quelques gestes tumultueux envers eux? Les a-t-on jamais trouvés porteurs d'une arme charnelle, ou quel fut leur crime, sinon qu'ils avertissaient les pécheurs de se repentir, et l'impie de se détourner de sa voie? Nous en appelons aux dieux du ciel en leur faveur, eux qu'ils ont martyrisés pour le nom du Christ, qu'ils n'avaient aucune autre offense à leur reprocher, sinon leur conduite, leur doctrine et leurs pratiques religieuses. Nous croyons fermement que ces souffrants ne sont pas allés en Nouvelle-Angleterre pour leur propre cause, mais pour la cause de Dieu, sous les mouvements de son Saint-Esprit, et en bonne conscience envers lui. Ils préférèrent souffrir la perte de leur propre vie par obéissance envers Dieu plutôt que de lui désobéir pour garder les commandements des hommes. Le sang de nos frères est sur la tête des magistrats de la Nouvelle-Angleterre. Ils sont coupables de leur mort cruelle, car ils les ont mis à mort non pour quelque mal commis entre hommes et hommes, mais pour leur obéissance à Dieu et par souci de bonne conscience envers lui. Edward Burroughs poursuit ainsi, ou encore, ces pétitionnaires cajolants et flattant ces termes, que le roi n'écoute pas les paroles des hommes, vos serviteurs sont des hommes véritables, craignant Dieu et le roi, et non portés au changement, zélés pour le gouvernement et l'ordre. Nous ne sommes pas séditieux à l'égard des intérêts de César, etc. En réponse à cela, plusieurs choses doivent être considérées. Pourquoi les pétitionnaires semblent-ils exhorter le roi à ne pas écouter les paroles des hommes? L'innocent sera-t-il accusé devant lui sans être entendu dans sa légitime défense? Le roi ne doit-il pas entendre les accusés autant que les accusateurs, et avec autant de justice? J'espère que Dieu lui a donné plus de noblesse d'entendement que de recevoir ou de mettre en pratique une telle admonestation, et je souhaite qu'il soit bien loin du roi de condamner jamais une personne ou un peuple sur l'accusation d'autrui, sans audition complète des accusés autant que de leurs ennemis, car c'est justice et équité que d'agir ainsi, et c'est par là que son jugement sera d'autant plus juste. Ainsi, ces considérations sont présentées au roi, pour la défense de ce peuple innocent appelé Quakers, que ces pétitionnaires ont accusé de crimes odieux, afin qu'eux-mêmes paraissent innocents de la cruauté, de l'injustice et de l'effusion du sang des justes sans cause. Mais que le roi considère justement le différent entre eux et nous, et qu'il ne détourne pas son visage d'entendre le cri du sang innocent. Pour un témoignage supplémentaire de la méchanceté et de l'énormité de ces pétitionnaires, et pour démontrer jusqu'où ils ont procédé contrairement aux bonnes lois et à l'autorité de l'Angleterre, et contrairement à leur propre brevet, est annexé à ceci et présenté au roi un abrégé de leurs injustes traitements envers les Quakers. Quel effet cet appel d'Edward Burroughs eut sur l'esprit de Charles Yee n'a pas été rapporté, mais il y a de bonnes raisons de croire qu'il contribua à ouvrir les yeux de ce monarque sur la disposition intolérante de ses sujets au Massachusetts. Au début de 1661, George Bishop de Bristol publia son New England Judged, ouvrage auquel nous avons fréquemment fait allusion, et qui expose un récit très circonstancié des souffrances des amis dans cette province. Un exemplaire parvint bientôt au palais. Le roi, manifestement intéressé par le livre, fut vivement frappé par le passage où il est rapporté que Denison, persécuteur actif, aurait dit par mépris pour les autorités de la métropole, à un ami qui en appelait aux lois d'Angleterre contre sa conduite cruelle et illégale, « Cette année vous irez vous plaindre au Parlement, et l'an prochain ils enverront voir comment cela se passe, et la troisième année le gouvernement aura changé. » Les paroles de Denison imprimèrent fortement au roi l'idée que la loyauté de ses sujets dans cette colonie n'était pas celle qu'ils avaient professée dans leur récente adresse. Il s'arrêta dans sa lecture et, appelant ses courtisans autour de lui, attira leur attention sur le passage et remarqua, d'une manière très significative, « Voyez, voilà mes bons sujets de Nouvelle-Angleterre, mais je vais les arrêter. » Les amis, en Angleterre, n'avaient pas cessé de penser à leurs frères persécutés en Amérique tout au long de leurs souffrances. Mais, dans l'idée que la loi de bannissement sous peine de mort avait été suspendue, l'inquiétude éprouvée auparavant s'était considérablement relâchée. Tel était l'état d'esprit sur la question, jusqu'à l'été 1661, lorsque la nouvelle arriva qu'un autre Quaker, William Ledra, avait été conduit à la potence à Boston. En apprenant cette triste nouvelle, et aussi que d'autres avaient été condamnés à subir le même sort, les amis en Angleterre virent la nécessité de faire des efforts immédiats et énergiques pour arrêter la main qui martyrisait au Massachusetts. Edward Burrough, courageux et puissant défenseur de la société persécutée, résolut aussitôt de solliciter une entrevue et de plaider en personne auprès du roi sur ce sujet. On savait aussi, désormais assez bien, que Charles Yee regardait d'un œil soupçonneux la loyauté professée de ses sujets de la Nouvelle-Angleterre. La suprématie puritaine avait conduit son père à l'échafaud, et la puissance et l'influence puritaine l'avaient longtemps privé de son accession légitime au trône. Le souvenir de ces choses, et sa connaissance des récentes procédures inconstitutionnelles des colons, qui n'avaient pas permis les appels en Angleterre, conformément à la condition expresse de leur charte, était de nature à produire un sentiment de méfiance dans l'esprit du roi. La démarche de Burrough reçut une réponse chaleureuse, et le monarque prêta volontiers l'oreille aux accusations portées contre les autorités de Boston. Une fois admis en présence du roi, Edward Burrough l'informa qu'une veine de sang innocent s'était ouverte dans ses domaines, qui, si elle n'était pas arrêtée, les inonderait tous. Son angoisse quant aux vies menacées de ses frères fut bientôt apaisée. Le roi répondit avec fermeté, « Mais je vais arrêter cette veine, alors faites-le promptement, » répliqua Edward Burrough, « car nous ne savons pas combien d'autres pourront bientôt être mis à mort. »« Aussi promptement que vous le souhaitez, » répondit le roi, et se tournant vers ses serviteurs, il dit, « Appelez le secrétaire et je vais le faire à l'instant même. » Le secrétaire étant arrivé, le mandamus suivant fut immédiatement accordé, « Charles, digne de confiance et bien-aimé, nous vous saluons. » Ayant été informé que plusieurs de nos sujets parmi vous, appelés Quakers, ont été et sont emprisonnés par vous, dont certains ont été exécutés, et que d'autres, comme cela nous a été représenté, sont en danger de subir pareil sort, nous avons jugé bon de vous signifier à cet égard notre bon plaisir pour l'avenir. Et par la présente, nous vous enjoignons que s'il se trouve parmi vous des personnes de ce peuple appelé Quakers, déjà condamnées à souffrir la mort ou quelque autre châtiment corporel, ou qui sont emprisonnées et passent. Et pour ce faire, ces présentes lettres vous serviront de garantie et de décharge suffisante. Donné en notre cours, à Whitehall, le 9 jour de septembre 1661, la très e année de notre règne, à notre digne de confiance et bien-aimé John Endicott Esq. Et à tous et chacun des autres gouverneurs ou gouverneurs de nos plantations de la Nouvelle-Angleterre et de toutes les colonies y appartenant, présentes ou à venir, et à tous et chacun des ministres et officiers de nos plantations et colonies quelles qu'elles soient, dans le continent de la Nouvelle-Angleterre. Par ordre de Sa Majesté, William Maury, qu'il se soit dit bien davantage entre le roi et Edward Burrough en cette occasion si intéressante ne peut être mis en doute. Le bref récit que nous avons donné est toutefois tout ce que l'histoire a conservé de cet entretien. Le mandamus ayant été accordé, les amis étaient impatients de le faire parvenir sans délai à Boston. Burrough, infatigable et pleinement conscient de l'importance d'éviter tout retard inutile dans une affaire où la vie de ses amis était en jeu, sollicita, un jour ou deux plus tard, une nouvelle audience du roi. Comme la première fois, l'entretien lui fut aisément accordé. Edward Burrough ayant exprimé son désir de célérité dans cette affaire, le roi répondit qu'il n'avait pas, pour le moment, l'occasion d'envoyer un navire en Nouvelle-Angleterre, mais si eux, c'est-à-dire les amis, en envoyaient un, il pourrait le faire aussi vite qu'il le voudrait. Le roi, afin de faciliter l'objet, ayant ainsi proposé de s'écarter du mode habituel d'acheminement des dépêches officielles, Edward Burrough fut encouragé à lui demander s'il accorderait une commission pour porter le mandamus en Nouvelle-Angleterre un Quaker. Le roi répondit « Oui, à qui vous voudrez ». Cette réponse favorable amena Edward Burrough à proposer au roi le nom du banni Samuel Shattuck. La proposition était sans doute audacieuse. Samuel Shattuck était le seul exilé du Massachusetts encore en Angleterre, et l'esprit pénétrant d'Edward Burrough comprit vite que confier le mandamus à un individu dans une telle situation serait un moyen très efficace et très significatif pour le souverain de manifester son indignation face aux transactions cruelles et illégales de ses sujets de Nouvelle-Angleterre. Le roi approuva la suggestion, et le persécuté Shattuck fut aussitôt autorisé à se rendre en Nouvelle-Angleterre comme messager du roi porteur du mandamus. L'attention des amis se porta ensuite sur le moyen le plus rapide d'acheminer Samuel Shattuck à Boston. L'urgence du sujet était telle que la dépense fut jugée secondaire. Un accord fut bientôt conclu avec Ralph Goldsmith, un ami, maître d'un bon navire, pour prendre la mer, avec ou sans cargaison, dans les 10 jours, à destination de Boston, pour la somme de 300 livres. Le capitaine se prépara immédiatement à partir. La traversée fut favorable et, au bout d'environ 6 semaines, le bâtiment jeta l'ancre dans le port de Boston, le jour de leur arrivée étant le premier jour. Un navire portant les couleurs anglaises étant entré dans le port, quelques habitants, désireux de recevoir les lettres et d'apprendre les nouvelles qu'ils pouvaient apporter du vieux pays, montèrent bientôt à bord. Samuel Shattuck et le capitaine avaient convenu au préalable que l'objet de leur venue serait tenu strictement secret jusqu'après leur entretien avec Endicott, le gouverneur. Les citoyens, montés à bord, furent informés qu'aucune lettre ne serait remise le premier jour. Ils revinrent et rapportèrent qu'un chargement de Quake était arrivé et qu'au nombre de ceux trouvait le banni Shattuck. Cette rumeur, tout en étant de nature à produire la consternation parmi les autorités, dut aussi impressionner singulièrement l'ensemble des habitants. Conformément au plan convenu, aucun membre de l'équipage ne fut autorisé à débarquer le jour de leur arrivée. Le lendemain matin, Samuel Shattuck, portant avec lui le document officiel et accompagné du capitaine, se rendit à terre. Les bateliers ayant reçu l'ordre de retourner au navire, les deux amis se dirigèrent aussitôt vers la demeure du gouverneur. Là, le portier voulut connaître l'objet de leur visite. « Notre affaire, répondirent-ils, vient du roi d'Angleterre, et ayant demandé qu'on informe son maître qu'il ne remettrait leur message à nul autre qu'au gouverneur lui-même, et ils furent promptement introduits en sa présence. » Endicott, voyant Samuel Shattuck entrer le chapeau sur la tête, ordonna qu'on le lui ôtât. Shattuck produisit alors le mandamus et ses lettres de créance comme messager du roi. Endicott fut stupéfait et confondu. Le colon Quake méprisé, qu'il avait chassé de son pays et de son foyer, se tenait devant lui comme représentant de son souverain, portant un signe accablant de la colère royale. Endicott n'oublia toutefois pas les exigences de l'étiquette. On ordonna de rendre le chapeau au Quake banni, et en reconnaissance de la présence du délégué du roi, il ôta immédiatement le sien. Après avoir lu les documents et s'être retiré un court moment, le gouverneur revint et demanda aux deux amis de l'accompagner à la maison de Bellingham, le lieutenant-gouverneur. Là, les deux autorités conférèrent ensemble sur la nouvelle position dans laquelle la colonie se trouvait placée du fait du mandamus, puis dirent brièvement à Shattuck et à son compagnon « Nous obéirons aux ordres de Sa Majesté ». Après ces entretiens, le capitaine Goldsmith retourna à son navire et fit débarquer les passagers, qui tinrent bientôt une réunion religieuse avec leurs amis de la ville afin de rendre grâce au Père de toute leur sûre miséricorde pour une manifestation si éclatante de sa providence, les délivrant de l'oppression d'hommes bigots et cruels. Le sens du mandamus royal, ainsi que le fait qu'un Quake banni eût été envoyé comme porteur officiel, comme on peut l'imaginer, déconcerta fortement les dirigeants du Massachusetts. Les instructions royales retiraient aux autorités coloniales tout pouvoir de juger le cas de quelques amis alors emprisonnés. Elles devaient cesser d'y procéder davantage, mais envoyer immédiatement en Angleterre tous ceux qui étaient sous condamnation ou emprisonnement. Endicott et ses collègues virent que l'envoi de leurs prisonniers Quake en Angleterre, selon les modalités autorisées par le mandamus, fournirait au roi de puissants témoins contre eux-mêmes. Il importait donc d'éviter un dilemme si dangereux. Or, pour y parvenir, une seule voie sûre s'offrait à eux, n'avoir aucun prisonnier de ce genre à envoyer, et agissant sur cette conclusion, tous les amis alors détenus furent promptement libérés par l'ordre suivant, à William Salté, geôlier de la prison de Boston. Il vous est enjoint, par l'autorité et l'ordre de la Cour générale, de relâcher et de libérer les Quakers qui sont actuellement sous votre garde. Veillez à ne pas négliger cela. Par ordre de la Cour, Edward Rawson, secrétaire Boston, le 9 décembre 1661. Un jour de règlement de compte pour la conduite despotique et illégale que les zélotes de la Nouvelle-Angleterre avaient suivi semblait maintenant se précipiter sur eux, et, conscients de leur culpabilité, ils s'employèrent à conjurer l'issue redoutée de leur mauvais gouvernement. Aussitôt après la libération des amis de la prison de Boston, ils jugèrent opportun d'envoyer au roi un messager spécial pour l'informer de leur prompte soumission à sa volonté royale, et peu après, d'envoyer une délégation en Angleterre pour atténuer leur sévérité sans autorisation et surveiller les démarches liées à cette affaire. Les personnes choisies pour cette tâche peu enviable furent Norton, ministre de Boston qui s'était fait remarquer en favorisant ses cruautés, et Simon Broadstreet, magistrat persécuteur. les députés étant arrivés en Angleterre, se rendirent à Londres où, remarque Soule, ils s'efforcèrent de se disculper autant que possible, surtout le prêtre Norton, qui s'inclina avec autant de révérence devant l'archevêque que devant le roi. Pendant le séjour de Norton et Broad Street à Londres, les amis eurent avec eux plusieurs entretiens au sujet de l'objet de leur mission. Il était notoire qu'ils avaient eux-mêmes été profondément impliqués dans les barbaries de la Nouvelle-Angleterre. Norton, toutefois, craignant les conséquences d'en convenir, nia toute participation aux mesures extrêmes prises à Boston. Cet éloignement de la vérité ne le protégea pas, car John Copland, à qui l'on avait coupé une oreille, se trouvant par hasard à Londres à ce moment-là, s'avança et contredit sa déclaration en face. Broad Street, moins équivoque, ne nia pas avoir été l'un des magistrats ayant voté pour l'exécution des amis et tenta ouvertement de justifier sa conduite. George Fox, présent à l'un de ces entretiens, leur fit de vives remontrances sur leurs horribles agissements et leur demanda s'ils reconnaîtraient être soumis aux lois d'Angleterre. Broad Street répondit qu'ils étaient sujets aux lois d'Angleterre et qu'ils avaient mis ses amis à mort par la même loi que celle par laquelle les jésuites étaient mis à mort en Angleterre. George Fox, croyez-vous que ces amis que vous avez mis à mort étaient des jésuites ou portés au jésuitisme, député? Non, George Fox. Alors vous les avez assassinés, car puisque vous les avez mis à mort par la loi qui fait mettre à mort les jésuites ici, et que vous reconnaissez pourtant qu'ils n'étaient point jésuites, il apparaît clairement que vous les avez mis à mort selon votre propre volonté, sans aucune loi. Broad Street, se trouvant, avec son compagnon, pris au piège de ses propres paroles, demanda s'il était venu pour les attraper. George Fox, vous vous êtes attrapé vous-même, et vous pourriez justement être inquiété quant à votre vie, et il ajouta que si le père de William Robinson était en ville, il est probable qu'il les mettrait en cause et mettrait leur vie en péril. Les députés, alarmés par leur situation périlleuse, commencèrent, dit George Fox, à s'excuser, disant qu'il n'y avait plus de persécution maintenant chez eux, mais, le lendemain matin, nous reçûmes des lettres de Nouvelle-Angleterre nous informant que nos amis étaient de nouveau persécutés. Sur quoi nous retournâmes les voir et leur montrâmes nos lettres, ce qui les réduisit tous deux au silence et à la honte. Norton et Broad Street, ainsi confrontés, furent perplexes et pris d'une grande crainte d'être inculpés pour meurtre. Broad Street devint particulièrement inquiet parce qu'il avait ouvertement confessé avoir été partie prenante des exécutions, bien qu'ensuite il ait tenté de le contester. Certains des vieux royalistes, qui n'avaient aucune sympathie pour la dissidence puritaine, s'efforcèrent avec insistance de convaincre les amis d'engager des poursuites, mais George Fox et ses amis refusèrent, disant qu'ils les laissaient au Seigneur, à qui appartient la vengeance, et il rendra. Certes, le fait que les Quakers refusèrent de rendre la pareille à leurs ennemis, même lorsque la loi leur en offrait l'occasion, est une preuve claire du vrai christianisme, demeurant fidèle aux enseignements du Christ, pardonner les torts qu'on vous a faits, prier pour vos ennemis, bénir ceux qui vous persécutent. De même, les persécutions en Amérique et en Angleterre par les baptistes, les épiscopaliens, les presbytériens et les congrégationalistes puritains montrent qu'ils étaient de faux chrétiens, parce qu'ils n'obéissaient pas aux commandements du Christ. Le père de William Robinson, qui n'était pas Quaker, ne voulant pas laisser le meurtre de son fils passer si tranquillement, se rendit à Londres dans l'intention d'ouvrir une enquête et d'interroger les députés au sujet de sa mort. Norton et Broad Street, redoutant les conséquences de son investigation et sentant qu'il n'y avait pas de sécurité pour leur vie tant qu'ils demeuraient en Angleterre, décidèrent prudemment de rentrer chez eux, et ainsi une rencontre entre eux et Robinson fut évitée. Cette mission en Angleterre fut un échec complet. Les colons, en effet, en étaient si conscients que, de retour au Massachusetts, les deux députés reçurent un accueil froid. Que remarque l'historien Neal, ils aient trop flatté la cour ou promis pour leur pays plus qu'ils ne le devaient, on l'ignore, mais lorsque Norton rentra chez lui, ses amis se tinrent à distance, et certains lui dirent en face qu'il avait posé les fondements de la ruine de leur liberté, ce qui le frappa au cœur et le plongea dans un état mélancolique du corps qui hâta sa mort. Avant de passer à d'autres sujets, il peut être bon de remarquer les tentatives qui ont été faites pour expliquer et justifier les cruautés exercées par les pères pèlerins à l'encontre de la Société des Amis en Nouvelle-Angleterre. Les plaidoyers avancés, depuis cette époque jusqu'à nos jours, ont grandement travesti les motifs et la conduite des premiers Quakers dans ce pays, et des accusations ont été portées contre eux qui sont entièrement dénuées de fondement. Il était naturel de s'attendre à ce que les auteurs puritains s'efforcent, autant que possible, de défendre le caractère de leurs frères contre l'opprobre que leur politique persécutrice avait si justement fixé sur eux, Et ainsi trouvons-nous Cotton Mather, l'historien favori de la Nouvelle-Angleterre, réitérant les accusations des hérésies, de blasphème, des atteintes au gouvernement civil, etc. Que les autorités coloniales adressèrent à Charles Yee. « J'en appelle, dit cet écrivain partial, à toute la partie raisonnable de l'humanité. La jeune colonie de Nouvelle-Angleterre n'avait-elle pas raison de se prémunir contre ces dangereux scélérats ?» Les critiques qu'Edward Burrough présenta au roi au sujet des accusations en question, et auxquelles il a déjà été fait allusion, rendent inutile que nous en dénoncions l'injustice. Mather, cependant, malgré son extrême partialité sur le sujet, avait conscience que ces corligionnaires avaient violé les lois de l'humanité et de la justice, sentiment que le passage suivant met clairement en évidence. Un grand tumulte, observe-t-il, s'est élevé contre la Nouvelle-Angleterre pour leur persécution des Quakers, et si quelqu'un veut paraître pour en faire la défense, qu'il fasse comme il lui plaira, pour ma part, je ne le ferai pas. Suite des premiers Quakers américains, le but de ce site web est de montrer comment se libérer du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.